Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous de jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de PC, de consoles, d'industrie, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il faut retenir, sauf aujourd'hui et un petit peu pendant les vacances, puisque pendant les vacances, moi je suis en vacances, enfin en vacances, vous entendez les enfants qui sont derrière, non ils sont pas là mais ils seront quand vous entendrez cette émission, et du coup on fait des épisodes spéciaux. Vous avez eu un épisode sur la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo il y a une semaine, c'était super intéressant, je suis sûr que vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire « Oh mais Patrick c'est dingue, tu fais un travail tellement fou dans tes podcasts, j'adore !» Je n'en doute pas et je ne doute pas non plus que vous allez refaire la même chose aujourd'hui puisque l'émission va vous passionner. Puisqu'on va parler avec Trinity. Salut Trinity, comment ça va ?
Bonjour, c'est moi la dame passionnante ? Mais c'est génial !
Écoute, c'est l'espoir, mais tu sais, bon, moi je suis convaincu que ça va être passionnant, mais au minimum, on va donner de la bonne humeur aux auditeurs grâce à ton rire légendaire, le rire exactement. Le plus célèbre du Twitch Game qui nous accompagne aujourd'hui.
Ouais, bah ouais, non, je suis ravie d'être dans cet épisode. Enfin, ça me fait hyper plaisir de pouvoir un petit peu plus discuter avec toi et merci de me consacrer un épisode.
Mais oui, parce que cet épisode, on va parler de Trinity, on va parler de Priscilla Poirel. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Ça fait un peu générique de Goldorak, ça. qui est-elle ? D'où vient-elle ? Formidable streameuse. Et on va essayer de faire un petit peu, de faire un point sur ton parcours, de savoir comment tu es devenue streameuse à temps plein. On a fait de temps en temps des trucs comme ça. Il y a un autre épisode qui va faire un petit peu le portrait d'une personne que vous connaissez peut-être dans l'environnement du rendez-vous jeu dans quelques semaines. Mais là, c'est l'occasion de te parler à toi et de faire justement, c'est un format que je fais pas souvent, qui m'est arrivé de faire de temps en temps, mais qui est un petit peu interview, portrait d'une personne que j'aime bien et dont j'aimerais savoir un petit peu plus. Donc, bienvenue dans cette émission. Et puis, on va parler de toi. Est-ce que t'es prête ?
Je suis prête. Let's go.
Parfait. Du coup, commençons bien comme on le fait dans ce genre d'exercice. Commençons par le début avec, juste pour situer, quel âge tu as ? Quand est-ce que tu es née ?
Ah, il commence directement avec les questions qui fâchent. C'est pas possible, hein. Non, c'est pas vrai.
J'ai prévenu s'il y a eu la moindre. C'est comme s'appelle le jeu de la vérité, sauf qu'on peut avoir autant de jokers qu'on veut. Si tu veux pas répondre, t'as le droit.
Non, c'est pour la blague. Non, j'ai aucun souci avec mon âge. Je vais avoir 32 ans le 8 septembre. Je suis née le 8 septembre 1990. Je suis une enfant des années 90, yes. Et je suis née à Nîmes, dans le Gard.
D'accord, très bien. Donc, une trentenaire à peu près. Du coup, quand tu as commencé à atteindre l'adolescence, Internet existait déjà plus ou moins, donc tu es une enfant de la génération qui a grandi avec Internet, on va dire.
Oui, en fait, moi, j'ai vraiment vu l'évolution. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans notre génération, c'est que je suis partie de... Il n'y a pas d'Internet, on ne sait pas ce que c'est vraiment, ou en tout cas, c'est un peu nébuleux. Et ensuite, ça s'est inclus petit à petit dans ma vie, et notamment effectivement à l'adolescence. Je me rappelle de mon premier PC, j'étais un peu plus jeune, j'étais encore au primaire. Et c'était l'époque où vraiment le web, c'était hyper limité, et j'avais des espèces de CD, par exemple, qui parlaient des animaux. Et je passais des journées entières sur ces CD qui parlaient des animaux sur mon PC. Ça ne servait absolument à rien d'avoir un PC, autant allumer la télé et regarder un reportage sur les animaux.
Trucs genre encyclopédie, trucs interactifs où tu peux appuyer, oui, ça fait graou, ce genre de trucs, quoi.
Exactement, mais c'était des trucs, c'était à la fois enfant-adulte, tu vois, et effectivement, moi je trouvais ça complètement dingue, quoi. On était dans une espèce de truc un peu virtuel où t'avais des reportages sur les tigres, ensuite quand je cliquais sur tel truc, ça faisait un autre reportage. Enfin, je trouvais ça absolument génial. J'aimerais bien retrouver d'ailleurs ce CD, ce serait assez drôle, tu vois, de le refaire en live et de me dire, ah oui, d'accord. Mais ouais, j'ai vraiment vu, l'avènement, le soulèvement des machines, ouais, l'avènement. Internet.
Donc t'étais assez grande quand même pour te rendre compte de la magie du truc et visiblement, enfin, j'imagine qu'il y a plein d'enfants qui font juste bon bah je clique, ok, ça fait ça. T'avais l'air d'avoir une affinité pour être un petit peu, peut-être pas fasciné, mais au moins interloqué, impressionné par ce genre d'outils, quoi.
Ah ouais, complètement, complètement. Alors moi j'ai quand même toujours j'ai toujours grandi avec des consoles à l'époque. Mais effectivement, Internet, pour moi, c'était un truc de dingue. Enfin, on a connu les débuts de Facebook. Facebook, c'était un truc de fou. Enfin, à l'époque, pour nous, c'était... Alors maintenant, Facebook, c'est un peu, tu vois, c'est un peu le petit boomer. Voilà, c'est un peu le petit boomer des réseaux sociaux. Mais pour nous, à l'époque, Facebook, j'ai connu MySpace, d'autres sites dans cet esprit-là. Les Skyblogs.
Skyblog, voilà.
Mais oui, bien sûr. Attends,
c'est marrant comme les Skyblogs, ça a marqué mais tout l'Internet, quoi. Autant en France, mais autant que Facebook ou d'autres... Enfin, tout le monde connaît les Skyblogs, tout le monde a eu un Skyblog. Bon, moi, peut-être pas, mais ouais, c'est vraiment un truc incontournable.
Skyblog, c'était un peu le premier... Où, tu vois, Facebook, il fallait ajouter des gens pour que les gens voient ce qu'il y avait sur ton profil, etc. Parce que je suis même pas sûre qu'à l'époque, il y avait les pages, j'en sais rien. Mais Skyblog, c'était vraiment le truc ouvert à tous, quoi. Donc, des gens, c'est la première fois que des gens du monde entier, entre guillemets, c'est plutôt en France, hein, parce que autant te dire que les gens du monde entier, on avait strictement rien à faire de ma vie en Lozère à l'époque. C'est la première fois que des gens de la France entière m'écrivaient, des gens que je connaissais absolument pas. Donc ouais, ça nous a, je pense que ça nous a tous marqué. C'était un petit peu notre journal intime ouvert, quoi, à tout le monde, quoi.
Tu dis de la France entière, ça veut dire que déjà à l'époque des Skyblogs, c'était quoi, 2003, 2004, 2005, quelque chose comme ça peut-être?
Oui.
Déjà à cette époque, tu avais toi une présence publique qui touchait des gens d'un petit peu, parce que tous ceux qui avaient un Skyblog n'étaient pas forcément des gens qui recevaient des messages de la France entière. Généralement, c'était tes potes de collège qui allaient voir et laisser des réactions offensantes sur ton Skyblog. Mais toi, tu avais déjà cette propension à t'ouvrir un petit peu plus loin, essayer de diffuser ce que tu produisais ?
Eh ben, c'était pas le but à la base, mais en fait, dis-toi que je me suis aperçue de ça au The Event il y a 2 ans, je crois, je devais être celui de 2020, c'était celui de 2020. En fait, j'avais un goal qui était « je relis mon Skyblog avec vous ». Et en fait, donc j'ai ressorti ce Skyblog que les gens me demandaient depuis 8 ans. Hein. J'ai ressorti ce Skyblog et on a commencé donc à lire un petit peu mes posts et on est allé dans les commentaires. Et en fait, plein de gens m'ont dit « mais tu avais énormément de commentaires ». Et en fait, il y avait plein de gens qui n'étaient absolument pas des gens qui étaient autour de moi. Et là, j'ai eu une espèce de tilt en me disant « non mais en fait, t'étais déjà sur Internet en fait ». Tu vois, t'étais déjà la fille qui voulait parler à tout le monde et qui parlait avec tout le monde, c'est assez drôle. Et oui, en relisant ces commentaires, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens de la sphère Skyblog qui venaient sur mes posts, parce qu'à l'époque, j'avais c'était un peu l'époque de la mode emo, cybergoth, etc. Mm-hmm. Et moi, j'avais un look très particulier. Hein, parce que, bon, à l'époque, forcément, je passais pas à travers. Hein, là, tout le monde le voyait.
Et, donc, collège-lycée, t'étais déjà... Enfin, t'étais dans la mouvance, oui, t'étais goth, déjà écoutais du métal, quoi.
Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été un peu décalée. Depuis que je suis petite. Déjà, quand j'avais 11 ans, je me rappellerai toujours, je suis arrivée au collège et j'étais assez grande. Hein, et j'avais piqué un tailleur à ma mère qui datait des années 80, vert pomme, avec un pantalon à pois blanc vert pomme. Donc, je te laisse imaginer le truc qui arrive au collège. Genre, à l'époque, c'était absolument pas le look. À l'époque, on avait les pantalons dragon, tu vois, ce genre de truc. Moi, déjà, j'arrivais avec des looks toujours improbables. Et puis, ouais, quand j'avais 13-14 ans, je suis allée au Festival international des sports extrêmes à Montpellier, le FIS, qui existe toujours, que j'ai fait 15 ans plus tard ou 17 ans plus tard, justement, cette année. Et là, j'ai eu une espèce de révélation. J'ai vu des gens avec des baguilles, qui écoutaient du métal. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. Et du coup, j'ai commencé à écouter Linkin Park. Alors, c'est vraiment le bébé du métal, Linkin Park. Hein. Beaucoup de gens commencent avec ça. Et après, ouais, j'ai commencé à avoir des looks. Moi, je me retrouvais, en fait, dans ce truc-là. Je pense que j'étais une gamine qui avait besoin d'exprimer des choses. Mmh. Et du coup, ouais, j'étais déjà dans la mouvance métal, etc. Donc, quand j'ai eu mon Skyblock, j'étais en plein dedans. Mais alors là, vraiment... tu pouvais pas être plus dedans. J'avais les cheveux colorés, j'avais de l'eyeliner qui faisait 3 km, je passais un tube d'eyeliner par mois, j'avais des baguilles, donc j'avais le starter pack pour réussir sur Skyblog, en fait, tu vois. C'est vraiment pour être une ressource sur Skyblog, j'étais au top, tu vois. Du coup, ouais, ce look là m'a permis d'avoir ma petite notoriété sur Skyblog.
Et du coup, bon, ça c'était peut-être une indication sur tes goûts, ton caractère, mais ça n'a pas mené, c'est pas du Skyblog que t'as transité vers d'autres activités en ligne. Mais du coup, dans cette période, est-ce que c'est, on va parler un petit peu jeux vidéo quand même, tu disais j'avais des consoles à la maison depuis toujours, je te pose la question classique, d'où ça vient cet amour pour le jeu vidéo? Est-ce que c'était depuis l'enfance ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Comment c'est arrivé?
Alors moi, pour la petite histoire, ma première console, je l'ai eue, j'habitais encore à Nîmes, j'avais 4 ans. Mon père était légionnaire, donc je le voyais pas beaucoup. Il était très très souvent en mission. Et du coup, les amis qui se fait aussi là-bas, à la Légion, ça devient vraiment une sorte de famille, qui eux nous considèrent aussi un peu comme leur famille. Il y a vraiment une espèce de truc un peu lié comme ça. Et c'était un ami de mon père, un très très bon ami de mon père, avec lequel j'ai repris contact récemment, d'ailleurs, c'est assez drôle. Et il est venu à la maison et il m'a offert une Super Nintendo. Et mon père n'était pas là, et lui, pendant que mon père n'était pas là, il a dit, bah tiens, il a demandé à mon père, et du coup, il m'a offert cette Super Nintendo. Et là, ça a été la révélation. Je sais pas si ça a été une joie ou un malheur pour mes parents, mais en fait, d'un seul coup, je suis instantanément devenu addict. Il y avait presque un côté néfaste, hein, c'est-à-dire que je suis tombée là-dedans et j'ai commencé j'avais 4 ans et ma mère, elle essayait vraiment de limiter le truc, mais en même temps, elle aimait bien jouer à Donkey Kong Country. Donc, tu vois, elle essayait de jouer avec moi et tout. Et en fait, j'ai tellement joué que j'ai eu un peu des troubles du comportement, on va dire, dans la première année, où je dormais très mal. J'ai vraiment eu quelques petits soucis et le médecin lui a dit non, mais là, en fait, c'est la console. Hein. Là, elle joue beaucoup trop. Genre, la meuf, ça fait un an qu'elle a une console, elle a déjà tous les problèmes à trait à la console, quoi. Et du coup, ma mère a essayé de limiter.
Tu jouais combien? Tu jouais tous les jours? C'était quoi?
Déjà, je voulais jouer tous les jours. Après, je sais que ma maman, quand même, essayait d'être responsable et me faisait pas jouer toute la nuit, j'étais toute petite. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai toujours été une enfant qui vivait les choses pleinement et à fond. Et du coup, en fait, je m'énervais tellement sur les jeux parce que je jouais à des jeux super durs, quoi. À l'époque, c'était très dur, les Donkey Kong, etc. Quand t'as 4 ans. Que du coup, ça m'énervait beaucoup, en fait. Ça m'énervait beaucoup. Et puis, il y avait cette nouveauté de rester beaucoup devant un écran qui, à l'époque, maintenant, les gens sont plus habitués. Hein. Tu sais, on a tous un portable, bien que ça reste pas hyper bon. Mais à l'époque, moi, à part regarder des Disney, le reste du temps, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses en extérieur. Et j'ai commencé à être vachement sur cette console. Donc, ma maman a essayé la solution radicale de « je lui supprime la console
». J'imagine que ça s'est pas bien passé.
Ça s'est très mal passé pour elle, hein, je te le dis. Je l'ai menacée et tout. Non, c'est faux, mais elle a essayé de l'enlever. Et moi, c'était un peu mon échappatoire. Hein, tu vois, cette console, moi, j'ai toujours été, pour pas faire dans le larmoyant, mais moi, j'ai toujours été une enfant pas mal rejetée. J'étais vraiment assez seule, en fait, dans mon coin. Donc, pour moi, cette console...
Dans ton environnement,
console,
tu veux dire en dehors de la maison, à l'école?
À l'école,
enfin,
ouais.
Oui, sans faire dans la... Dans la psychologie de comptoir, on peut imaginer qu'avec un papa qui est toujours en mission, enfin qui est toujours, c'est pas facile non plus. Ouais.
Non, voilà, il y avait ça. Et puis, du coup, à l'école, ça se passait. Quand j'étais toute petite, ça allait. Mais dès que j'ai commencé, après, à grandir instantanément, ça a commencé à pas super bien se passer à l'école. Parce que j'étais un peu bizarre. Tu vois, j'étais un peu bizarre et moi j'ai aucun mal à le dire, moi je trouve ça cool en fait d'être un peu bizarre, mais j'étais un peu bizarre comme gamine, j'avais pas des sujets que les gamins avaient à l'époque, donc bah, les gamins ça va très vite et ça rejette très vite, donc moi cette console c'était aussi un petit peu une façon pour moi de, bah, d'aller dans d'autres univers et ça me faisait énormément de bien. Ça me faisait énormément de bien et j'en parlais récemment où je me disais, bah en fait, ouais, moi, les jeux vidéo, ça a été un peu comme quand les gens se plongent dans les livres ou se plongent dans la musique, ou etc. C'est juste que c'est un autre support. Oui. Mais bon, j'ai joué un peu trop, quoi. Et ma mère a calmé tout ça. Et ensuite, ma mère a calmé tout ça, mais elle a compris qu'elle ne pourrait pas me l'enlever parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et après, ça s'est enchaîné. Mon papa m'a acheté la PlayStation. Forcément, la première. Il est rentré, je m'en rappellerai toujours, hein, il est rentré. Je devais être en CE1 ou quelque chose comme ça. Et il m'avait dit, si tu as des bonnes notes, je l'avais eu au téléphone, il était à 10 boutis, je crois, à l'époque. Et il m'avait dit, si tu as des bonnes notes et que tu passes dans la prochaine classe, quand je rentre, je te ramène la PlayStation 1. Et il a tenu parole. Il a tenu parole. Il l'avait à l'époque, je crois que même qu'il les vendait dans les aéroports, un truc comme ça. Il l'avait acheté à l'aéroport et il me l'avait ramené. Et du coup, là, pareil, ça a été la découverte de la 3D, carnage. Hein, ça a été gros carnage, ouais. Avec les Tomb Raider, etc. Quoi.
Du coup, c'est de là que c'est venu. C'est marrant parce que. Quand tu parles de tout ça, je pense que... Bon, comment dire ? La plupart des gens... Je ne veux pas dire que les gens qui jouent aux jeux vidéo, les gamers, ont tous une histoire un petit peu comme ça et que les autres, tout va bien dans leur vie. Mais je pense quand même que... moi, je me reconnais un petit peu dans ce que tu racontes. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se reconnaître un petit peu là-dedans. Tout le monde a une histoire de ce type. Mais ouais, donc toi, c'était de là que venait ton amour pour la chose. Donc, avançons vers les années... ouais, donc là, on est autour des années 2000. Et ouais. Si je me souviens bien, ta carrière de pro sur Battlefield, c'était début 2010, c'est ça ?
Ouais, moi, ça a commencé vers mes 20 ans. 20 ans, 21 ans. Elle n'a pas duré très longtemps, en fait. Plus tard.
Ouais, ah, c'est bon, ça. Vas-y. Donc, ce que je veux te demander, c'est comment ça se passe entre c'est entre 4 et 10 ans, on va dire, où c'était la période PlayStation, t'étais collège, lycée, tout ça. Et comment t'es arrivé carrément à... parce qu'entre jouer, passer beaucoup de temps dessus et essayer de s'orienter vers une carrière de professionnel dans l'e-sport, il y a quand même un petit pas. Qu'est-ce qui se passe entre 2000-2005 et 2010, qui fait que tu t'es vraiment dirigé dans cette direction, peut-être plutôt que, je sais pas, faire de la musique ou faire autre chose.
Oui, bien sûr. Bah, moi, comme je te disais, donc il y a eu la PlayStation, donc j'ai pas lâché, toujours la même passion. J'ai commencé à échanger avec des gens, etc. Et j'ai commencé aussi à beaucoup jouer sur PC. J'achetais plutôt les jeux sur PC, donc plein de choses. J'étais une très très grosse fan de Splinter Cell. J'ai commencé aussi à découvrir les jeux d'horreur. J'ai commencé notamment avec tout ce qui est, alors à la base, Resident Evil, forcément sur PlayStation, hein, qui m'a traumatisé. Hein. C'est pour moi, c'est le meilleur exemple. Petit aparté, c'est le meilleur exemple de pourquoi il faut respecter les PEGI, en fait.
Ah oui, donc quand tu dis traumatisé, c'est pas juste pour la blague. Quoi.
Ah non, c'est pas une blague. Et pourtant, j'adore les jeux d'horreur maintenant. Tu sais, je pense que je suis un peu maso sur les bords parce que la meuf a été traumatisée, mais elle les adore, ces jeux-là. Mais non, vraiment, moi, j'étais très jeune quand j'ai découvert Resident Evil. J'ai fait une petite fourberie à ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je suis allée chez une amie. Ils avaient la PlayStation. À l'époque, c'était ceux qui n'ont pas connu cette période, qui sont un peu plus jeunes. C'était la folie, quoi. PlayStation, tout le monde avait une PlayStation, tout le monde voulait y jouer, on se réunissait à la maison pour y jouer, c'était hyper social, etc. Et j'étais allée chez une amie, et d'un seul coup, je regarde sur l'écran, et je vois un truc qui m'interpelle, quoi. Je vois des espèces de trucs de zombies dégueulasses. Et c'était à la fois flippant, Et tu sais, quand t'es hypnotisé par quelque chose qui te fait flipper, tu vois, il y a un peu ce côté, t'es là, mais attends. Et elle me dit, bah, c'est Resident Evil, etc. Resident Evil 1. Là, je dis, ok, moi, il me le faut. J'avais 9 ans. Hein. J'avais 8-9 ans.
Hein. Et 9 ans. Mais attends, ouais, t'as, super jeune, ton ami, hein. Elle y jouait aussi, ou c'était genre le grand frère ou
C'était son grand frère.
D'accord.
Ouais, c'était son grand frère et elle le regardait jouer. Et là, je me suis dit, ok, ça, c'est exactement ce que je veux. Donc, on est allé au supermarché. Ma mère, souvent, elle m'achetait de temps en temps un jeu. Et là, j'ai pris la fameuse pochette de Resident Evil 2 avec le gros crâne tête de mort dessus.
Tu l'as caché, t'as remplacé ?
Non, je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit, je veux ça. Ma mère, pas du tout au courant des Peggy. Hein. Et là, je me rappellerai toujours, elle m'a regardé, elle regarde le truc, elle me fait... Et pourquoi il y a une tête de mort là-dessus ? Et là, j'étais en mode, oh, je sais pas, non, mais c'est rien, c'est Resident Evil, je veux y jouer. Et en fait, elle a pas cherché à comprendre, tu sais, à cette époque-là, on se posait pas les mêmes questions, quoi. Tu vois, elle était en mode, ok, il y a un crâne, une tête de mort, bon, c'est pas très grave, elle veut jouer à ça.
C'est un jeu vidéo, ça va, c'est sur la console, c'est comme Nintendo.
Exactement. Et j'ai commencé à jouer à Resident Evil 2. Très honnêtement, j'en ai fait des cauchemars, mais des cauchemars terribles. C'est-à-dire que vraiment, je me planquais sous ma couette, j'entendais le bruit des zombies, la meuf devenait complètement folle, quoi. J'étais mais hyper stressée et tellement bien, il m'a tellement traumatisée qu'à un moment, je devais demander à ma mère de venir me border. J'avais 9 ans, tu vois. Et je disais à ma mère, je peux pas dormir toute seule. Elle comprenait pas pourquoi. Elle était là, mais
tu lui as pas dit, c'est le jeu qui me fait peur. Tu avais peur de lui expliquer ?
Mais j'avais peur de lui expliquer parce qu'elle allait me le prendre. Ouais. Donc, enfin, bref, c'est toute une histoire. Et pendant 6 mois, ma mère venait me border parce qu'elle était là, mais elle s'est dit, je sais pas, elle fait une crise de gamine. Enfin, j'en sais rien, quoi. Et après, elle a compris plus tard que c'était Resident Evil, quoi. Donc, bref.
Et donc, mais t'as continué à y jouer malgré le traumatisme.
Non, mais oui. En fait, moi, j'explique toujours aux gens. Il y a des gens qui me disent, Trinity, je sais pas comment tu fais pour jouer à un jeu d'horreur. Je dis, c'est comme quand tu vas dans un parc d'attractions. Tu as les gens qui vont aller au parc d'attractions et ils seront incapables de monter sur quelque chose qui leur fait peur parce que ça les tétanise. Et tu as les gens qui vont adorer alors que ça leur fait peur parce qu'en fait, il y a l'adrénaline. Et ben en fait, moi, je ressens ça avec les jeux d'horreur. C'est-à-dire que ça me fait une montée d'adrénaline, mais cette montée d'adrénaline, je l'aime en fait. J'ai peur, mais pas assez pour être paralysée en fait.
Ouais.
Et du coup, c'est quelque chose qui est hyper galvanisant quand je joue à des jeux d'horreur. J'aime beaucoup ça. J'adore cette sensation de me sentir terrifiée parce qu'en plus, je vis le jeu hein, vraiment à fond, un peu trop même. Donc maintenant, ça, c'est resté. Donc j'ai découvert Resident Evil, les jeux d'horreur. Après, j'ai joué à Fear. J'ai joué à plein d'autres jeux sur PC. Et est arrivé, j'ai envie de mettre une musique de d'église, est arrivé. Counter-Strike 1.6.
Ah oui. D'accord.
Voilà. Et là, ça a été pareil. Hécatombe. Hein. Counter-Strike 1.6, j'étais au tout début de mon lycée. J'avais un PC portable. Et là, j'ai commencé à faire que jouer à ce jeu en ligne. Forcément. Et puis, je jouais tellement que finalement, j'étais pas si mauvaise que ça. J'étais pas si mauvaise que ça. Il y avait des gens qui me contactaient, des histoires d'équipe. Moi, je comprenais pas grand chose à tout ça. Et après, forcément, j'ai découvert Call of. Donc, avant d'être une grosse joueuse Battlefield, j'ai découvert Call of Duty.
Du coup, là, on est, 2000.
On est vers mai.
Quelque chose comme ça.
On est 2000. Non, là, on est en. Ouais, si, c'est ça. Ah, mais oui, oh mon Dieu, je suis si vieille que ça. Attends. Oh oui. Ça y est, je viens d'avoir la révélation. J'allais dire 2016, mais non, pas du tout. 2006. Oh mon Dieu. Je tombe dans les pommes. Non, mais ouais, 2000. On est dans les. Counter-Strike, on est dans les 2015-2006. C'est vers mes 15-16 ans.
2005-2006, ouais.
Ouais, 2005-2006. Et je jouais donc à l'internat, parce qu'après, j'ai été en internat parce qu'on habitait dans un bled paumé. Hein. Faut aussi préciser que. Quand j'avais 5 ans, on est parti habiter dans les Cévennes, ma région de cœur, ma région pour moi natale, etc. Et les Cévennes, c'est pas la ville en fait. C'est-à-dire que les Cévennes, nous on était, il y avait une maison et il y avait deux petites maisons à côté et le reste c'est des montagnes. Mais vraiment, je n'exagère pas. c'était 10 km pour acheter une baguette de pain.
Oui, bah, donc, connais bien, effectivement, c'est...
Voilà, donc, je pense que tu connais. Donc, tu vois, ça ne favorise pas le fait que tu vas sortir voir des gens, tu vas... tu vois, très honnêtement, tu as plutôt tendance à être chez toi et essayer de t'occuper. Donc, forcément, parfois, j'allais m'occuper dehors, je me baladais beaucoup, j'allais beaucoup me balader en forêt, etc. J'aimais déjà beaucoup la nature. Mais bon, quand tu t'es baladé 50 fois, au bout d'un moment, bah, tu joues, quoi. Donc, oui. ça aussi, quand même, je pense que c'est important de le préciser parce que ça favorise énormément aussi le fait que je passais beaucoup de temps et que ma mère n'était pas juste une irresponsable. Non, ma mère aussi, bah, elle se disait, cette gamine s'ennuie. Hein, forcément, on est dans un bled paumé, il n'y a pas grand-chose à faire. Bien que j'ai essayé de faire plein d'autres activités à côté, mais il y a plein de temps à combler, quoi.
Oui, bien sûr.
Et donc, ouais, et... 15-16 ans, Counter-Strike. Et pardon, vas-y.
Non, non, si, c'est ça que je voulais te demander. Du coup, Counter-Strike, Call of Duty, donc ça devait être époque Modern Warfare, plus ou moins.
Ouais, dans ces eaux-là, j'avais un peu joué à ce moment-là. Après, j'ai commencé à... Donc, en fait, Call of Duty et Counter-Strike, mais surtout Call of Duty et après Battlefield, très rapidement, hein, ça s'est vite, très, très mis en parallèle. C'est-à-dire que je jouais à Battlefield, notamment Bad Company 2, et à Call of, et en fait j'avais pas la même satisfaction sur les deux. C'est deux jeux totalement différents, les gens veulent tout le temps les mettre, enfin à l'époque en tout cas les gens voulaient tout le temps les mettre en comparaison, et maintenant toujours, mais à l'époque ils étaient très 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 différents. Et du coup ça a réveillé en moi un truc de compétition mais saine, vraiment, où et je pense que ça fait écho aussi à toute l'enfance que j'ai eue et à tout ce truc où on m'a un peu mis de côté, où j'étais jamais la première dans le cœur des gens, dirons-nous, où je me suis dit, ok, puisque je peux pas être première auprès des gens, etc., je vais être première sur les jeux vidéo et je vais tout défoncer. Et ça a vraiment réveillé ce truc-là. Mais de façon assez saine, hein, c'est-à-dire que j'avais vraiment cet esprit de compétition qui s'est réveillé d'un coup. En plus, j'étais pas mauvaise, j'ai passé tellement de temps en fait que j'ai commencé à développer vraiment pas mal de skills sur le jeu, et j'ai commencé à rencontrer des gens, et ensuite bon bah j'ai fini le lycée, et là où ça a explosé c'est forcément quand je suis partie habiter toute seule à Montpellier, que j'ai eu ma console.
Ouais, excuse-moi, juste avant de partir là-dessus, je veux te poser une question sur le passage, ça m'a marqué, on parlait vraiment de jeux solo. Resident Evil, la Nintendo, tout ça. Et puis il y a eu avec CSGO et Call of Duty et Battlefield le passage au jeu en ligne. Ouais. Ça, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que c'était pareil, t'as découvert tout un nouveau monde, ou est-ce que t'as eu des introductions au truc avant, ou c'était tout à coup genre l'église, c'est un peu pour ça, parce que tout à coup c'était plus juste toi seul devant ta console avec CSGO. Cette transition, elle s'est faite comment?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire que du primaire jusqu'à la fin du collège, justement, c'était assez compliqué pour moi. J'avais pas énormément d'amis. Et quand je suis arrivée au lycée, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire que moi, je me suis un peu révélée à moi-même. Et,
c'est là que t'es partie dans les Cévennes ? C'était à quel moment que t'es partie dans les Cévennes ?
Non, je suis partie dans les Cévennes, j'avais 5 ans. J'ai eu
ma console à 4
ans. Ah
d'accord, ok, c'était vraiment depuis... Ah oui. Donc le fait de trouver un échappatoire dans les jeux... Enfin, quelque chose à faire dans les jeux vidéo, au lieu de partir marcher dans la forêt, c'était depuis le tout début, quoi. Oui, d'accord.
Okay. Oui, c'était depuis le tout début. Ça a été un savant mélange de plein de choses qui a fait que, bah oui, les jeux vidéo, c'était un peu une évidence pour moi, comme ça aurait pu être une toute autre passion. Et donc, ce passage s'est fait quand je suis arrivée au lycée. Là, j'ai commencé à me faire beaucoup d'amis, avec lesquels parfois je garde encore contact maintenant, qui étaient des métalleux. Alors, forcément, je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons. Je ne sais pas pourquoi je dis forcément, mais enfin, voilà, j'avais des passions où j'étais plus à même d'en discuter avec des garçons. En fait. Donc on parlait de métal, hein, forcément des grosses métalleuses qui jouent aux jeux vidéo, il n'y en avait pas 40 000 non plus au lycée, donc du coup je me suis fait beaucoup d'amis, et eux, bah, c'est eux qui m'ont dit, non mais attends, mais il faut qu'on joue ensemble, t'as déjà joué à Counter-Strike et tout, j'étais là, non, vas-y, fais voir, et il m'a fait découvrir. Et alors, pour la petite anecdote, encore une, j'étais dans un lycée qui s'appelait le lycée Chaptal, hein, qui se trouve à Mende en Lozère, donc encore un bled paumé, hein. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, la meuf a décidé de ne vivre que dans la forêt. Et du coup, c'était un lycée pareil. Il n'y avait pas énormément d'occupation, notamment quand on était interne. Beaucoup de gens étaient internes, hein, parce que forcément, on était assez loin de nos parents. Et du coup, le lycée faisait en sorte qu'on ait des activités. Et je me rappellerai toujours de Sandro, si tu passes par là, je te fais un coucou. Il y avait une salle qui était avec plein de PC qui, à la base, la journée, servait pour faire de l'anglais. Eh bien, à force de discuter et de négociation avec le proviseur, nous avons réussi à faire en sorte que cette salle devienne une salle de Counter-Strike le mercredi après-midi.
Oh là donc, là, mais le proviseur le plus cool de France, quoi.
Ouais. On lui a super bien vendu le truc, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas tant de soucis que ça, c'est un très bon lycée, mais il y avait quand même beaucoup d'histoires de, forcément, hein, on est jeunes, les gens rentraient bourrés le mercredi après-midi. Du coup, on lui a dit, écoutez, si vous voulez pas que les gens rentrent bourrés, il faut leur donner des activités, en fait. Il faut qu'ils fassent des trucs cool. Et vous savez ce qui est cool ?
Malin !
Strike 1.6 ! Ben oui ! Et du coup, en vrai, il a accepté très rapidement. Mmh. Et cette salle est devenue une salle, mais un repère du mercredi après-midi. C'était la guerre hein, pour avoir un poste. Hein. Pourtant, il y avait plein de PC. Hein. C'était la guerre pour avoir un poste. Et du coup, on allait passer nos mercredis après-midi là-bas à jouer à Counter-Strike 1.6. Quoi. Donc, ça s'est fait comme ça, en fait. Moi, c'est vraiment mes amis qui m'ont initié à ce truc-là, à jouer en ligne. Et ça a très vite pris. Puis en plus, il y avait le côté en ligne, je pouvais jouer à la maison, mais le côté en ligne, en plus, je jouais avec mes amis. On était dans une micro-LAN, en fait, hein, ouais, déjà ouais. De base.
Imaginez l'ambiance, ça devait être incroyable.
Ah, c'était incroyable, ça criait, enfin, comme dans une LAN, en fait. Ouais, hein, ouais. C'était la folie. Bon, bien évidemment, il n'y avait pas beaucoup de filles, hein, mais moi, j'aimais ça. On était très bien là-bas dans notre salle, dans notre petit repère. Tu sais, en plus, tout était fermé, les rideaux étaient fermés. C'était vraiment le cliché, quoi. Hein, on était vraiment dans le noir, etc. Et en fait, à partir de là, j'ai aimé ça. Et en plus, il y a quelque chose de merveilleux avec le jeu vidéo quand tu joues en ligne. Bon, bien sûr, on te dira qu'il y a le mauvais côté et que oui, il y a des jeux où malheureusement, parfois, c'est un peu négatif et toxique en ligne. Mais il y a aussi ce côté où, en fait, on voit pas à quoi tu ressembles. On te juge pas sur tes vêtements, sur ton look, sur rien. Parfois, il y avait juste ce côté, ok, on joue, on passe un bon moment, on rigole, on se félicite parce qu'on a explosé une team en recherche et destruction sur Call of, et c'est très cool. Et moi, j'aimais vraiment ce côté-là, d'être un peu, tu vois, de juste briller par mes qualités de jeu et non pas être évalué ou dévalué par rapport à ce que je suis, le look que j'ai, parce que j'avais déjà plein de piercings. Hein. Pareil, j'étais déjà à fond. Donc, ça s'est vraiment développé comme ça. Et ensuite, d'accord. Je suis partie donc, du lycée. Alors, le lycée, pour ceux que ça intéresse, peut-être qu'ils poseront la question, mais j'ai fait des études. J'étais en bac littéraire. Mais dans un lycée donc à Mende, un peu spécialisé en art, parce qu'en fait j'ai toujours dessiné. Je dessinais beaucoup et je voulais avoir quelque chose en art. Donc c'est un lycée un peu spécial. C'était une sorte de mélange entre art appliqué et littéraire. C'était un des seuls lycées de France qui faisait ça. Il le faisait aussi pour la musique. Donc j'ai passé mon bac là-bas avec ma spé art. Et en fait quand j'ai fini mes études, on m'a dit dans quoi tu veux bosser? Je dis c'est très simple, dans le jeu vidéo en fait. Et je me rappelle qu'à l'époque, je disais tout le temps que même si je dois passer la serpillière, je veux passer la serpillière dans un studio de jeux vidéo, tu vois. Je leur disais, je veux que tout soit dans un studio de jeux vidéo pour la blague. Et en fait, je leur disais, j'ai envie de faire quelque chose dans le jeu vidéo. Donc à l'époque, forcément, je connaissais pas tous les débouchés, mais je me disais, je fais de l'art, j'aime ça, pourquoi pas travailler dans un truc qui concerne ça, sur l'élaboration des jeux, tout ça. Et personne ne m'a encouragée, hormis mes parents. On m'a dit, mais non, il n'y a aucune débouchée, le jeu vidéo, ça ne marche pas. On m'a dit ça mot pour mot.
C'est même pas qu'ils t'ont pas encouragé, c'est qu'ils t'ont carrément découragé à fond.
Ah oui, on m'a découragée à fond et on m'a dit, même la conseillère d'orientation, hein. C'est-à-dire que la conseillère d'orientation m'a dit, ah non, mais tu peux pas faire du jeu vidéo, etc. Faut remettre le contexte, hein. C'était il y a 17
ans. Non, mais c'est quand même 2008,
quoi.
Du coup. Ouais. 2008, le jeu vidéo était quand même pas complètement, tu vois, était pas anonyme. Ouais. C'est, ouais. Bon, c'est intéressant.
Mais à l'époque, je pense que, tu vois, les débouchés pour aller dans le jeu vidéo étaient très peu connus, etc. Et donc moi, on m'a vraiment dit non, non. Et puis on m'a dit, mais attends, mais regarde, moi j'étais très bonne en histoire de l'art, en analyse d'œuvre. On m'a dit, mais tu peux pas gâcher ça. Il faut que tu partes en faculté d'histoire de l'art et bababa.
Alors, moi, quand on parle de débouchés, là, je suis pas certain que l'histoire de l'art, ça soit les débouchés les plus éclatants.
On est d'accord, hein. Clairement, moi sur le moment j'étais là, bon bah tu sais tu suis un peu aveuglément, je dis bon bah on me dit qu'il faut que j'aille là, j'y vais, donc je suis partie à Montpellier, à la fac en histoire de l'art, ça a duré un an, ça a été une catastrophe, parce qu'en fait quand je suis arrivée là-bas on m'a dit bah en fait tu pourras devenir conservatrice de musée ou prof d'histoire, d'histoire de l'art ou prof d'art plastique, et j'étais là, mais en fait c'est absolument pas ce que je veux faire, donc là j'ai fait un an à Montpellier, c'était une catastrophe, et justement donc, je suis restée 3 ans à Montpellier, donc là à peu près de mes 18 à mes 21, et là ça a été la période où j'ai commencé à beaucoup plus jouer à que des jeux en ligne quasiment. Moi j'étais beaucoup sur Xbox hein, à ce moment-là, faut le savoir, j'étais team Xbox, donc là j'ai commencé à me faire des potes qui jouaient à Battlefield à fond, à Call of Duty, mince c'était lequel déjà, avec le mode zombie,
Call of Duty 2008, Black Ops peut-être,
Black Ops,
ouais,
Black Ops. C'est ça. Le Black Ops, j'ai commencé à jouer, mais comme une malade en fait. Je faisais ça toute l'après-midi jusqu'au soir. Maintenant, je pourrais plus. Hein. Je sais pas comment je faisais à l'époque. Jouer, c'est une chose, hein, mais alors jouer à Call of toute la journée ou à Battlefield toute la journée, je pourrais plus. Et je jouais qu'à ça. En même temps, à ce moment-là, c'était un peu une période de flottement pour moi parce qu'en fait, je ne savais plus ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'on m'avait tellement orienté dans un truc que je ne voulais pas, que je ne voulais pas continuer mes études là-dedans. Je sentais que je perdais mon temps. Et en même temps, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais plus. On m'a dit que le jeu vidéo, c'était mort. Donc, j'avais grave de temps. Hein. Là, je jouais, je cherchais du travail, je n'en trouvais pas. Montpellier, c'est la ville où il n'y a pas de travail. Et j'ai commencé à me dire, bon, vas-y, je vais au moins essayer de faire des stages, quelque chose. J'ai fait des stages chez Game à l'époque. Je faisais des stages chez Game, je vendais les jeux vidéo chez Game Montpellier. Pendant 1, 2 mois, 3 mois, tu vois, j'enchaînais les stages en me disant ça va me faire de l'expérience, on va me donner un travail à force, c'est pas possible.
J'ai travaillé chez Score Games à l'époque aussi, c'est vraiment des parcours. Ouais, bon, bref, vas-y, continue.
Assez similaire. On a un peu tous les mêmes. Et ensuite, c'est passé quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que j'ai découvert, via un article ou je ne sais plus, j'ai découvert qu'il y avait une école de testeurs de jeux vidéo, pour le jeu vidéo qui s'appelait Créageux, qui s'appelle toujours Créageux, qui faisait à la base du graphisme, programmation, tu vois, tous les cursus très classiques. Et là, je vois un article qui dit « Première fois en France, une formation de testeur de jeux vidéo. » Et là, je me dis « Attends, quoi ?» Donc, je commence à regarder, parce qu'à l'époque, mes parents m'avaient proposé, hein, j'ai oublié de le préciser, mais m'avaient proposé, en fait, de me payer une école de graphiste. Pour moi, je sais pas, il y avait un peu ce truc de c'est extrêmement cher et j'avais pas envie d'imposer ça à mes parents. Pour moi, c'était hyper compliqué à ce moment-là. Je me disais, mais non, je peux pas leur imposer ça. Et en fait, je pense qu'aussi, il y avait un peu de manque de confiance en moi. Je me suis dit, si je foire, ils m'en voudront toute leur vie. J'étais vraiment en mode, ça coûte 7000 balles l'année. C'est 3 ans, c'est énorme comme somme, surtout à cette époque-là où j'avais 350 euros d'aide. Pour moi, 7000 euros, c'était le bout du monde.
Ouais.
Donc, j'avais refusé. Et en fait, donc, je vois cette école, cette formation, et je me renseigne. Et en fait, oui, effectivement, à l'époque, et ça l'est toujours encore un peu maintenant, mais pour être testeur de jeux vidéo, tu vois, on prenait les gens qui faisaient des bêta-tests, il n'y avait aucune formation, c'était un peu au bouche à oreille.
Oui. Tu parles des départements QA, Quality Assurance, ce genre de choses, c'est ça?
Ouais, d'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais préciser. Donc, testeur de jeux vidéo, c'est pas journaliste ou blogueur, hein. C'est pas je donne une note sur un jeu et je le teste et c'est cool. C'est vraiment... la partie ingrate, et d'ailleurs tu es détesté de toute l'équipe de prod, hein, parce que c'est toi qui donne toutes les mauvaises nouvelles. Voilà, ouais. Tu leur dis, écoute, là ça va pas, il y a un bug de collision.
C'est pour que les gens se rendent bien compte, le QA c'est vraiment le métier dans le développement de jeux vidéo qui est, je pense, le plus ingrat. C'est vraiment compliqué parce qu'il faut que tu trouves tous les bugs. Et pour trouver les bugs, c'est pas juste, ah bah, si j'avance vers ce mur, je vais me retrouver coincé dans la géométrie. C'est pas juste ça. C'est genre, alors attends, si je fais cette quête à tel moment et que je prends tel objet et que je le mets dans tel sac dans l'interface et que là, je vais tuer le boss de telle manière, est-ce que ça peut provoquer un problème ? Et c'est interminable, c'est horrible. Enfin, horrible. C'est exact. Un travail très,
et non,
très
compliqué. Mais ouais. Et c'est important de le préciser parce que, justement, bon, j'ai fait forcément cette école, j'ai été prise, on était 10 en France à être pris. Et en fait, c'est important de le dire parce que souvent, les gens remettent en cause quand il y a des bugs. Ah, il y a des bugs. Oui, mais en fait, il faut des montagnes de testeurs. Et encore, on ne trouvera pas tous les bugs, parce qu'il y a trop de possibilités, tu vois. Il y a trop de possibilités. Alors bien sûr, oui, il y a des jeux, il ne faut pas abuser, il y a trop de bugs, tu vois. Mais parfois, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et se dire, ne pas oublier ce que c'est que ce travail. Et justement, moi, quand j'ai passé mon entretien là-bas, j'avais totalement conscience de ce qu'était ce travail. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils m'ont aussi accepté. Ils m'ont dit, ok, tu sais ce que c'est que le travail de testeur, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient et qui étaient là, ouais, je vais tester les jeux vidéo. Alors ouais, mais tester les jeux vidéo, attention, ça ne va pas être une partie de plaisir. Et du coup, j'ai fait cette formation qui a duré, je crois que c'était 4 mois. Et ça s'est hyper bien passé. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé. Alors, je dis pas que si j'avais fait ça 10 ans, j'aurais kiffé. Mais je pense que j'ai un peu ce côté. Je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses. Je suis un peu, quand j'ai un truc en tête, je suis un peu psychorigide et j'y vais à fond. Et du coup, là, il y avait vraiment ce côté-là où c'est chercher la moindre erreur. Tu vois, c'est vraiment aller fouiller.
Ouais.
Et moi, je prenais beaucoup de plaisir, en fait, à chercher ça. Il y a un côté extrêmement carré aussi dans le rapport des bugs. Hein. La majorité, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais la majorité des studios utilisent un logiciel qui s'appelle Mantis. Mantis, en fait, c'est un logiciel qui va permettre de rentrer les bugs. Il faut savoir les catégoriser. C'est-à-dire, il faut savoir si ça vient de la programmation, si ça vient des graphistes, si ça vient de tout. Il faut savoir le décrire. Donc, tu apprends vraiment à décrire un bug. Tu peux pas arriver et juste raconter ta life, en fait, pendant 20 lignes. Il faut que ce soit clair, net, concis, que la personne sache comment le reproduire, etc., etc. Et il y a plein de classifications comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup ce côté. Je pense que c'était le côté, ouais, je compartimente et je range tous ces problèmes. Et quelqu'un va les résoudre, en fait. Donc j'ai fait cette formation et je n'ai pas eu de travail derrière. C'est la conclusion.
Ah merde, je me disais, ça y est, elle est partie vraiment travailler pendant quelques années dans des studios, mais en fait, pas du tout. D'accord.
Pas du tout. Alors après, pas du tout. J'ai pas du tout travaillé là-dedans. J'aime bien à chaque fois le dire, ça m'a pas apporté de travail, mais parce que c'est entièrement ma faute. Je pense que j'ai pas mis l'énergie nécessaire par la suite. Cependant, ça m'a apporté une connaissance du monde du jeu vidéo et une connaissance de ce qui se passe, qu'on avait des cours aussi de production de jeux vidéo, etc. Il y avait plein de cours annexes. Donc ça m'a permis de savoir comment est fait un jeu vidéo de A à Z. Ça m'a permis de connaître un peu toutes les étapes et d'avoir aussi un recul par rapport à ça, par rapport aux gens qui font les jeux vidéo. Honnêtement, j'ai pas eu de taf derrière, moi ça m'a apporté une expérience et je pense une certaine crédibilité au début de ma carrière quand je discutais de jeux vidéo qui a été hyper importante en fait, tu vois, à ce niveau-là.
D'accord. Du coup, oui, là, on commence à arriver. Bon, clairement, le jeu vidéo a toujours eu une place hyper importante dans ta vie et dans ton parcours. Donc, tu sors de cette formation. J'imagine que pendant toute cette période, tu continuais à jouer à Battlefield régulièrement. C'est pendant cette période que tu as commencé à... Parce que, encore une fois, bon, c'est vrai que si on parle de, je sais pas, 2011, 2012, l'activité de e-sportif professionnel n'était pas aussi cadrée et carrée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais c'est pas non plus que du jour au lendemain, tu dis, je me lève, j'ai pas trouvé de boulot dans le QA, je vais aller devenir e-sportive. Comment ça s'est passé la transition, enfin, pour en arriver à faire partie d'une équipe ?
Alors justement, oui, parce que c'est vrai que c'était la question de base, mais que je suis la meuf qui digresse le plus au monde.
Non, mais c'est hyper intéressant.
Ça fait 20 minutes qu'on essaye d'arriver à mon truc dit sportive, mais la meuf a raconté toute sa vie, quoi. Mais du coup, ouais, effectivement. En fait, en parallèle, j'ai continué à jouer énormément. Tout mon temps libre, quasiment, était consacré aux jeux vidéo. Un peu de jeu solo, entre guillemets, type des trucs bien bourrins. Là, à l'époque, j'étais vraiment, tu vois, moi, c'était Gears of War à fond. Mm-hmm. Et à côté,
c'est marrant, comme tout correspond à l'image que j'ai de toi aujourd'hui, comme quoi c'est cohérent. Hein. Gears of War, ça me surprend, mais alors zéro.
Ah ouais, et puis j'étais fanatique totale de Gears of War. J'avais tous les. J'avais même les chaussures. Ils avaient sorti des chaussures Gears of War, je les avais. Et Globe, c'était la marque Globe de skate qui avait sorti ces chaussures. Il y avait le logo Gears of War dessus. J'avais tout. Hein. Tout. Gears of War, Fallout en solo aussi, beaucoup. Hein. Ça a été la période où j'ai découvert Fallout. Et là, alors, je t'explique même pas. Là, je suis tombée amoureuse de l'univers. Pareil, fanatique. Donc pareil, hein, la meuf ne sait pas faire quelque chose de nuancé. C'est-à-dire que j'aime un truc, ok, donc je vais tout collectionner. Donc Fallout, j'ai des boîtes entières de trucs Fallout que j'ai accumulés sur les années. Et à côté, effectivement, Battlefield, Call of, donc Call of Black Ops, beaucoup. Ensuite, il y a eu celui d'après qui est sorti et j'ai beaucoup moins accroché. J'ai commencé à le délaisser et après Battlefield Bad Company, il y a eu Battlefield 3. Et là, révélation, Battlefield 3, perfection vraiment de jeu en ligne. Tous ceux qui ont connu cette période, je pense, s'en rappellent, c'était la folie. Le dynamisme d'un Call of, tout en ayant la particularité de Battlefield. Enfin, moi, je suis tombée amoureuse du jeu. Et là, je m'y suis mis corps et âme. J'étais même... Alors, au début, j'étais tankiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur Battlefield. J'étais classée dans le top 20 monde, je crois, à l'époque, de tank. Ah ouais. Donc en fait, je jouais le tank. Je prenais que le tank. Donc je faisais des parties, autant te dire, c'était éclaté, hein, parce que faut y aller hein, quand tu maîtrises bien ton tank pour que quelqu'un vienne te l'exploser. Faut y aller. Et en fait, en jouant comme ça, j'ai commencé d'abord avec une petite structure d'une amie. C'est une structure féminine. À l'époque, ils m'ont dit « Ah, tu veux pas venir faire un truc ?» C'était à l'époque où je jouais encore un peu à Black Ops. J'ai commencé à rentrer dans cette structure qui s'appelait Nemesis eSport, qui n'existe plus du tout. Hein. C'est vraiment les petites structures de l'époque. Et j'ai commencé comme ça. Bon, c'était entre filles, mais c'était cool. Mais moi, déjà, un truc qui... Enfin, le fait d'être entre filles, il y avait un truc qui bloquait, tu vois. Ah déjà, oui. J'étais là, bon, pas forcément envie d'être entre filles. Ça me dérange pas d'être avec des filles, mais voilà. Mais c'était quand même très cool. Et ensuite, avec l'arrivée de Battlefield 3, elles m'ont dit, OK, on te propose d'avoir ton propre roster Battlefield. T'es capitaine et tu gères les autres filles et vous allez commencer à faire des trucs. Donc moi, j'ai commencé d'abord en étant capitaine d'une équipe. Alors après, il faut savoir que la compétition sur Battlefield à l'époque, c'était très particulier hein, parce qu'on n'avait pas les mêmes... on pouvait pas organiser des tournois. Enfin, c'était un peu particulier. On était beaucoup sur le site, comment il s'appelle, LNP ? Non. C'est quoi déjà, je sais plus, j'ai perdu le nom, c'était des sites de tournois en ligne. Et en fait, la compétition n'était pas forcément, on en faisait parfois où on était sur des très grosses maps avec beaucoup de joueurs, mais la vraie compète, c'était en général du 5v5, un truc comme ça. Et en fait, c'était sur des morceaux de cartes assez réduits, enfin, c'était des règles très particulières avec de la capture de drapeaux, tout ça. Donc moi, j'ai commencé à gérer mon équipe. Ça n'a pas été... moi, je ne me sens pas l'âme d'une lead. Moi, j'ai besoin de me concentrer sur mon jeu, en fait. J'avais de la stratégie, mais moi, j'ai besoin de me concentrer sur mon jeu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je jouais beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Marinella, qui a repris contact avec moi récemment. Tout le monde, je reparle avec tout le monde d'il y a longtemps. Et elle était très forte aussi. Et en fait, on jouait beaucoup ensemble en ligne, hors entraînement. Et là... sincèrement, ce n'est aucunement prétentieux, mais on faisait des carnages. On pouvait retourner des games. C'était un truc de fou. Genre, on est vu quand t'es un duo et qu'en plus c'était sur un jeu où on pouvait se réanimer mutuellement, Non, mais laisse tomber, quoi. Vraiment, on pouvait retourner des parties. Et du coup, forcément, à force de jouer comme ça en ligne, il y a des gens qui ont commencé à nous repérer. Sur les serveurs, les mêmes serveurs, parce qu'il y avait les serveurs, on allait un peu sur les mêmes serveurs et tout. Et là, il y a quelqu'un, Mythix Unlocks, qui nous contacte et qui me... Je crois que d'abord, il me contacte moi, je sais plus. Et qui me dit, mais écoutez, vous êtes des tueuses. En fait, nous, on a une équipe qui s'appelle Mythics, qui à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, était l'une des plus grosses équipes. Il y avait les AAA, qui étaient très connus sur Counter, etc. Et il y avait Mythics. Mythics, pour remettre du contexte, c'est là d'où vient Gotaga. C'est là qu'a commencé Gotaga, à l'époque, sur Call of. Donc c'était vraiment the structure, quoi. C'était le top du top, et ils avaient un roster Battlefield. Et là, ils nous contactent, et ils nous disent, écoutez, moi, j'ai envie de vous faire passer un test, je vais demander au gars de l'équipe, on aimerait bien que vous passiez un test, en fait, avec nous, parce que je pense qu'il y a un truc, qu'il y a un truc à faire. Donc, on a fait un test avec toute l'équipe. Ils nous ont pris. Ça s'est super bien passé. Alors pour moi, là, j'avais l'impression d'avoir gravi l'Everest.
Gagné au loto, quoi. Ouais.
Non, mais gagné au loto total. C'est-à-dire que je passais de, d'une structure féminine, cool, mais bon, il n'y avait pas de grands enjeux, à la plus grosse structure de l'époque. Mmh. C'était vraiment Mythics. Tous les gens de l'époque, d'ailleurs, c'est assez drôle, les gens viennent m'en parler. C'était 2000... Alors attends, on a été champion en 2013. Ouais, si je dis pas de bêtises, 2013, donc ça devait être 2011, ça devait être quoi.
D'accord.
2011-2012, dans ces eaux-là. Et du coup, on a parce qu'on n'est pas resté si longtemps, justement, tu vas voir la petite histoire, mais... Donc on a commencé à jouer avec eux. Et là, on est rentré dans le dur, en fait. On est rentré dans, ok, on est dans une vraie structure e-sport, donc là maintenant c'est des entraînements toutes les semaines. On se battait à l'époque contre les Infamous, beaucoup on s'entraînait contre eux, qui était la deuxième plus grosse structure sur BF. C'était un peu la guerre Paris Saint-Germain Marseille, tu vois, c'était un peu ça. Nous, c'était notre Marseille ou notre Paris à nous, tu vois. Et on faisait des entraînements, beaucoup de tournois en ligne, etc., etc. Et en vrai, on cassait la baraque, quoi. C'était un truc de fou. Et ensuite...
Mais dis-moi, excuse-moi, sur tout ça, c'était que ce soit pour la structure, la première structure ou Mythics, vous étiez payé ou deviez bosser à côté ?
Non. En fait, c'était une époque... là, c'était une époque... Parfois, j'aime bien faire cette blague en live, je leur dis... J'ai été bonne à Battlefield à la mauvaise période, en fait. et surtout, j'ai choisi Battlefield. Hein. Donc, déjà, il y avait deux problèmes, parce que Battlefield, malheureusement, c'est un jeu qui est assez dur à transposer à la compétition e-sport. C'est un jeu qui est quand même beaucoup joué, mais que les gens regardent peu. Tu vois, il y a vraiment ce côté où Battlefield, j'ai l'impression que les gens qui jouent à Battlefield, ils sont sur Battlefield, ils regardent pas forcément des gens jouer à Battlefield, en fait, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Et surtout, c'était une époque, au niveau de l'e-sport, pour gagner ta vie dans l'e-sport français, pour gagner de l'argent déjà, c'était déjà un truc de fou. Moi, j'ai pas gagné un centime en étant chez Mythics, mais c'était pas grave. Moi, ça m'intéressait pas, en fait, à la base. Moi, ce qui m'intéressait, c'est jouer.
Bien sûr, mais ça veut dire que tu devais avoir un boulot à côté, que tu devais travailler à côté. C'était...
Et oui, je bossais à côté. J'ai d'abord fait un travail alimentaire et ensuite, j'aime bien le dire, mais je suis très contente d'avoir fait ce travail-là. Je suis très contente. J'étais ce qu'on appelle employée polyvalent. J'ai déménagé à Lyon, en fait, entre-temps, vers mes 21 ans, justement. Parce que j'avais envie d'un changement de vie total. Pour moi, Montpellier, j'en pouvais plus. Et du coup, je suis arrivée à Lyon et en fait, je me suis dit, j'ai un loyer à payer, il faut que je trouve un taf. Et j'ai été prise comme ce qu'on appelle agent polyvalent dans un petit spar, c'est comme un petit casino, et qui n'était pas du tout le travail de mes rêves. Hein. Mais maintenant, je suis très reconnaissante d'avoir fait ce travail-là. Parce que pour moi, ça m'a donné la notion aussi de ce que c'est que de se lever et de ne pas avoir envie. Exactement, de gagner 800 balles parce que j'avais même pas un temps plein, etc. D'être avec des patrons qui n'étaient pas ouf. Et du coup, j'ai fait ça presque un an et honnêtement, ça a été hyper enrichissant pour moi. Et surtout maintenant, tu vois, parfois quand vraiment j'ai l'impression que mes pieds vont décoller terre, je me dis attends, rappelle-toi ce que tu as fait là, hein, au tout début, calme-toi en fait, tu vois. Et ça m'aide à vraiment garder les pieds sur terre. Et ensuite, donc, j'ai quitté ce travail, ça se passait pas hyper bien et je travaillais chez Lush. J'étais passionnée de cosmétiques à côté. J'ai travaillé chez Lush, qui est une boutique de cosmétiques frais, faits main, anglaise et non testée sur les animaux, qui avait beaucoup de valeurs que je défendais, parce que je suis quand même très engagée pour la cause animale depuis mon adolescence aussi. Et du coup, j'ai commencé à bosser là-bas. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons. On en parlera après, mais après, pour finir, à manager, etc. Et en fait,
au final, tu as eu un poste du coup chez Lush. T'étais dans l'équipe managériale de la boutique.
En fait, à la base, je suis arrivée en vendeuse. Mmh. Et je suis arrivée en vendeuse, etc. Et ensuite, je suis passée manager adjointe. Puis, notre manager nous a lâchés. Donc, j'ai dû gérer la boutique toute seule, sans manager et sans adjointe, juste moi. Ouais. Donc, ça a été très formateur. Hein. Quand tu dois gérer une boutique qui est rue de la République à Lyon, qui est une boutique qui fait un chiffre d'affaires de dingue, etc. Donc voilà, j'ai fait tous les postes dans cette boutique. Et à côté... Je faisais d'abord, dans un premier temps, de l'e-sport avec Mintix. Je gagnais pas d'argent, mais c'est pas grave. Alors, c'était quelque chose, hein, fallait y aller, parce que je bossais hein, forcément la journée. Donc, le soir, je rentrais pour faire mes entraînements et tout. Et il y a eu la compétition, la Coupe de France, Battlefield. La Coupe de France qui était... Alors là, dit comme ça, tu sais, tu te dis « Waouh, Coupe de France, vous deviez au moins avoir un Zénith ». C'est vrai, c'était le Zénith du premier étage d'un magasin LDLC pour la finale, avec à peu près 10 spectateurs. C'était un truc de dingue. Et en fait, c'était un tournoi qu'on avait fait, c'était en 2013. C'était un tournoi d'abord, tout le tournoi se faisait d'abord en ligne. Etc. Donc il y avait tout un élagage comme ça en ligne. On avait deux rosters Mythix. Il y en avait deux, donc avec des remplaçants, etc. Donc nous, on a fait des tournois en ligne, etc. Jusqu'à arriver à la finale qui s'est jouée donc dans ce premier étage du magasin LDLC, qui a été une finale Mythix versus Mythix. Parce que nos deux rosters, le truc improbable, nos deux rosters ont remporté tout le tournoi. Donc, c'est le roster principal qui a affronté le nouveau roster. Moi, j'étais pas pour la finale, j'aime bien le préciser, je n'étais pas dans le game pour la finale. Moi, d'accord, j'ai joué sur toute la truc en ligne. Et en fait, c'est forcément Mythix qui a gagné. Et à l'époque, t'étais très content de gagner un clavier et une souris, en fait. Et c'était vraiment ça. J'ai retrouvé des photos de cette coupe de France, on a été champion de France quand même, Mythix, et on gagnait des claviers et des souris, tu vois. C'était vraiment une époque assez particulière. Fallait pas espérer avoir un cash prize de 50 000 euros, ça n'existait pas.
C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on voit les jeux qui ont des sections e-sport qui sont un petit peu, qui sont moins prestigieuses que d'autres. On peut penser, enfin, il y a plein de jeux qui ont des petites sections e-sport. Et tout le monde ne fait pas les LCS de LOL et des trucs avec des stades pleins, etc. Mais oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, pour des jeux qui étaient quand même des jeux importants dans l'industrie du jeu vidéo comme Battlefield, ça se retrouvait en Coupe de France. Mais j'imagine que c'était pas soutenu par... Il n'y avait pas de structure organisée par le développeur ou l'éditeur. C'était vraiment, on aime le jeu, donc on va faire des trucs, quoi.
Pas de souvenir. Alors, je t'avoue, je veux pas dire de bêtises, mais pas de souvenir. Justement, je crois, je me rappelle à peu près qu'à l'époque,
si EA ou DICE organisaient les tournois, ça serait pas fait dans un LDLC au premier étage.
Non, je pense pas. Et d'ailleurs, ça a été, c'est quelque chose que la communauté a beaucoup. Je dirais pas reprocher, mais on va dire que à l'époque, Battlefield 3, c'était quand même le jeu où il y aurait pu y avoir un truc de malade, en fait. Mmh. Parce que c'était un jeu, il y avait un tel engouement, ça a été le Battlefield qui a dû le plus cartonner de tous les temps. Tout le monde y jouait, les extensions étaient dingues, donc c'est dommage qu'ils aient pas fait quelque chose. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, ce petit titre de Mythix est... juste après ça, en fait, Mythix a décidé de fermer ses portes. Mmh. C'est-à-dire que c'était géré par deux personnes qui étaient à côté. Il y en avait un qui était cuistot et l'autre, je ne sais plus. Et en fait, ils n'avaient pas envie de... ils n'avaient plus le temps. Et ils n'avaient pas envie de la refourguer à quelqu'un, cette structure. Ils n'avaient pas envie de la donner. Ça se faisait hein, parfois. J'ai plus le temps de gérer. Je vais passer le flambeau. Et ils nous ont envoyé tout un long truc et ils ont communiqué publiquement pour expliquer que, ils préféraient s'arrêter là, à l'apogée en fait de Mythix, plutôt que de la refourguer et de la voir peut-être lentement dégringoler. Et la structure a fermé. C'était une belle fin. Moi, je trouve que c'est comme les groupes de musique. Parfois, il faudrait savoir s'arrêter au bon moment. et c'était une très belle fin. Donc, moi, j'ai à peu près fait deux ans et demi avec eux. Donc, j'ai eu une carrière e-sportive extrêmement courte, mais très intense parce que je suis passée de random à la plus grosse structure sur le jeu, en tout cas, que j'aimais à l'époque. J'ai eu cette expérience. Et quand tout s'est arrêté, on s'est un peu retrouvés tous là, notre équipe, à ne pas trop savoir quoi faire, oui, tu vois. Enfin, à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour s'occuper, quoi. Maintenant qu'on a fait la plus grosse équipe française sur BF, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait, tu vois. Il y avait un peu ce côté... Et les gens me disaient, mais il y a plein de structures qui me contactaient pour venir et tout. J'étais là, mais en fait, les gars, c'est pas contre vous. Mais moi, non, en fait. Je retrouverais pas ce que j'avais dans Mythix. Il y avait une telle cohésion. Moi, je continue à parler avec Bios, avec Furious, qui maintenant sont des casters, etc. Et d'ailleurs, ils ont été champions du monde de Rainbow Six, hein, il y a quelques années. Hein. Donc, c'est vraiment des gens qui ont continué là-dedans. Furious, il est caster maintenant sur des jeux e-sport, etc. Et avec mes autres amis aussi, Marinella, etc., on s'est retrouvés. Et bon, on jouait ensemble le soir. C'était un petit peu la petite mort, quoi. On était là, on sait pas trop. Et moi, je me disais, si je peux pas être dans Mythix, j'ai envie d'être chez personne, en fait. Je vais continuer à jouer, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire de l'e-sport? Je pense pas, en fait. Parce que j'avais un peu touché ce que j'avais le plus envie de toucher et que maintenant, c'était bon, quoi. Et là, j'ai commencé à jouer, donc on se réunissait le soir à plusieurs dans les chats vocaux de Xbox, etc. Et moi, je jouais parfois à des jeux pendant qu'eux jouaient à autre chose. C'était un peu notre vocal, c'était un peu notre Discord à nous. À l'époque, il n'y avait pas de Discord. Hein. Mmh. Ou ça y était, mais on ne connaissait pas en tout cas. Donc, c'était un peu notre Discord où on se réunissait. Et eux jouaient à tel jeu. Moi, je jouais à des jeux d'horreur. Et à un moment, je jouais à des jeux d'horreur, je gueulais, je flippais.
Ouais, c'est ça, tu commençais à streamer en vocal pour tes potes pendant qu'eux jouaient à autre chose.
Exactement. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu, mais il se passe ça dans le jeu, j'ai trop peur. Enfin bref, horrible. Le truc infernal. En plus, tu vois rien, quoi. Tu sais pas ce qui se passe. Et t'es là, mais arrête, mais non, n'aie pas peur. Et bah. Et bon, bref, tu commences à jouer à des jeux comme Outlast, etc. Et en fait, un ami à moi me dit, mais Trini, mais tu connais pas Twitch? Elle a. Genre c'était 2013-2014 et là je dis mais comment ça Twitch, qu'est-ce que c'est que ce truc encore, tu vois, vraiment j'étais en mode je connaissais pas du tout et j'arrive et je vais sur ce site et je vois des gens qui jouent et qui à leur caméra et j'étais là quoi, bon ok. Et il me dit, tu veux pas essayer de faire un live? Ouais, alors je me rappelle avoir essayé de lancer un live. Je comprenais rien. Enfin, va paramétrer un live quand t'as jamais connu. Enfin, tu sais même pas ce qu'il faut installer, en fait, tu vois. Donc, ok. Et de là, bon, j'ai réussi à installer le truc. Mais moi, quand j'étais allée sur Twitch, j'avais même pas compris qu'il y avait un chat, en fait. Donc, moi, je leur dis, bah tiens, j'ai créé un compte. C'est pour ça que si tu regardes mon compte Twitch, il a été créé assez tôt. Oui. Et j'ai créé un compte... Et ou là, je l'avais créé avant, je me rappelle plus. Bref. Et de là, je leur ai envoyé, tu vois, le nom de ma chaîne. Et ils ont commencé à me regarder, en fait. Ils ont commencé à me regarder jouer à des jeux d'horreur. Voilà. Une première fois, une ou deux fois, comme ça. Et puis, j'ai laissé tomber. Je suis, c'est bon, ça me saoule, en fait, ce truc-là. Ouais. Bref, on s'en fout. Et finalement, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit tilt dans ma tête quelques mois plus tard. Et je me suis dit, mais attends, c'était à l'époque où il y allait avoir Titanfall qui allait sortir. Moi, j'étais un peu lassée, tu vois, de BF, etc. Et je me rappelle qu'il y avait Titanfall qui allait sortir. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai qu'il y a ce truc, la Twitch, attends, je vais retourner voir. Et je suis retournée voir et je regarde les gens. Et là, je comprends qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Genre, mais la révélation, j'étais là, attends, il y a des gens qui font des dons. Non, mais tu sais, la première fois que tu t'aperçois de ça, en fait, ouais. J'étais là, mais attends, mais tu sais, je voyais les alertes de dons, les alertes de sub. Et on me dit, oui, non, mais tu comprends, en fait, il faut être partenaire pour avoir ça. Je fais, ah, ok, d'accord. Bon, de toute façon, je m'en fous. Je fais, tu sais quoi, il y a Titanfall qui arrive. Bah, tu sais quoi, je vais lancer un live, en fait, et je vais tester. Donc, j'ai commencé assise en tailleur sur mon lit, avec ma Xbox, la caméra Xbox, avec un casque Triton, parce que c'était l'époque des casques Triton.
Ah hein, mais attends, juste pour préciser, en fait, j'avais pas compris, même au début, tu streamais pas sur ton PC, tu streamais vraiment juste depuis ta Xbox, avec la connexion Twitch sur Xbox. D'accord.
Eh oui, C'est pour ça, alors je pense aussi que ça joue pas mal du fait que c'est pour ça que je comprenais pas bien le système de Twitch au début. Je savais ce que c'est que ce truc. Voilà, la fille était sur le truc Xbox, elle comprenait rien. J'étais là, ah ouais, les gens qui diffusent, enfin voilà. Donc j'avais pas forcément compris, effectivement, j'avais oublié de préciser, mais c'est pour ça que j'ai pas forcément compris le chat, tous ces trucs-là, tu vois. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, avec mon petit casque Triton que je posais, avec le micro du casque levé pour me faire un micro, parce que j'avais rien en fait. Et là, j'ai commencé à jouer comme ça, et j'avais un petit PC portable, et je l'avais mis à côté, tu vois. Parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait un chat. Bon. Et en fait, je n'osais pas parler à la caméra. C'est-à-dire que je trouvais ça trop bizarre. J'étais là, mais je discutais, j'avais des gens en vocal, les gens du live les entendaient, mais moi, j'étais incapable de répondre aux gens du chat. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais une petite pause dès que je me faisais tuer, et je répondais aux gens par écrit dans le chat. Parce que pour moi, c'était vraiment trop bizarre de leur répondre directement. Non mais, tu vois, vraiment, on part de loin. Hein. Donc quand on vous dit que tout est possible dans la vie, hein, les gars, hein, parce que là, on était vraiment... La fille n'osait même pas parler à la caméra, tellement c'était chelou, quoi.
Et là, on est quoi, en 2013, 2000, à peu près 2013, 2014
2014, à D'accord, peu près, ouais. 2014, début 2014, okay. Dans ces eaux-là, 2013-2014. On est dans ces eaux-là. Et du coup, je commence à discuter comme ça. Et le truc, c'est que la particularité de Twitch, il y a tellement de choses à dire. Particularité de Twitch, c'est qu'à l'époque, c'était très anglophone, en fait.
Ouais.
C'était une plateforme, j'avais beaucoup d'anglais qui venaient discuter avec moi, qui venaient voir mon skill. Donc moi, j'étais, à la base, j'étais connue pour être une joueuse skillée, hein, pas plus. Hein, j'animais pas plus que ça, je discutais, mais moi, le but, c'était de défourailler. Hein, voilà. Tout ce que je voulais, c'est que les gens voient que j'étais forte. C'est tout. J'avais aucun but hein, sur Twitch, à part qu'on me dise waouh, t'es trop forte. Et ça me faisait du bien, tu vois, vu que j'avais plus de compétition. J'étais là, ah oui, c'est vrai, je suis encore un peu forte quand même. Et du coup, voilà, j'avais une communauté anglophone. Petit à petit, ça s'est développé. Surtout, j'ai commencé à discuter directement avec les gens. Donc, je faisais un stream moitié anglais, moitié français. Donc, j'analysais beaucoup aussi. Toutes les analyses que je faisais, je les analysais en français et en anglais. Donc, ça laisse tomber le travail, quoi. C'était la meuf répétée. À chaque fois, les gens étaient là, oh mon Dieu. Et au bout de quelques mois, j'ai été repérée par Twitch US. Il faut savoir que le partner à l'époque, il y avait quasiment personne qui l'avait. Hein. C'était tellement un signe de reconnaissance ultime de Twitch qu'on le mettait dans notre titre. On le mettait entre crochets en majuscules quand il y avait le partner, parce que le partner, ça voulait dire Twitch m'a choisi parce que mon contenu est de très bonne qualité. Ouais. Et c'était vraiment ça. Hein. Moi, Twitch m'a contacté en me disant, ça fait 3 semaines qu'on est sur ton live et ça fait 3 semaines qu'on te regarde. Donc, tu vois, ils prenaient le temps, en fait, d'analyser vraiment une chaîne. On pense que ce que tu fais, c'est génial. Donc, on veut te laisser ta chance parce que tu n'as pas les stats pour avoir le partner. À l'époque, c'était, je crois, 350 de moyenne pour avoir le partner. Wow, c'était d'accord. Un truc de dingue, surtout. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, pour te dire qu'il y avait vraiment
350 viewers simultanés. Je précise aux gens qui ne connaissent pas bien Twitch. 360 ouais, viewers simultanés de moyenne. Quand tu streams, c'est beaucoup. Hein. La plupart ouais, des gens n'atteignent pas ça.
C'est ça. Et il n'y avait pas Twitch France en plus à l'époque. Hein. Ça n'existait pas Twitch France à ce moment-là. Et du coup, ils m'ont dit on veut t'aider. Moi, j'avais, au bout de quelques mois, j'avais quand même créé une bonne petite commu. Hein. J'étais dans les 80-100 viewers. Mmh. Ce qui était déjà très très bien à l'époque, surtout qu'il n'y avait pas forcément énormément de viewers. Enfin, Twitch était beaucoup moins connu. Et ils m'ont dit bah, tu sais quoi, on te donne le partner. Et moi, j'étais là, quoi ? On me donne le partner ? J'ai rien demandé. J'étais là, quoi ? C'est quoi ce truc de ouf ? Sachant qu'à ce moment-là, je ne gagnais aucun argent avec Twitch parce que j'étais persuadée que pour avoir le lien PayPal, il fallait être partner. J'ai passé des mois en étant persuadée que pour avoir de l'argent, il fallait être partner, en fait, tu vois. Alors que tout le monde mettait ses liens PayPal dans tous les sens. Moi, j'étais la seule en mode, non, mais il faut être partner, en fait. Et de là, eh bien... Je pense qu'ils ont fait exprès parce qu'ils ont vu ma fiche qui était remplie. Ils m'ont offert mon... Normalement, le partner, ça prenait 1 ou 2 semaines pour être mis en place. Moi, je l'ai attendu pratiquement 3 semaines, 1 mois. Mmh. Et en fait, je pense que c'est pas un hasard. Ils me l'ont fait tomber le jour de mon anniversaire, le 8 septembre. Oh. Ouais, et le 8 septembre, je suis arrivée et j'avais mon partner, en fait. Et c'est là que toute l'aventure a commencé. Je travaillais encore à côté, et puis tout s'est développé. Très vite, enfin pas très vite, il n'y a pas eu de...
Tu travaillais encore, là, t'étais chez Lush à ce moment-là, c'est ça ?
Ouais, et je travaillais 40 à 45 heures par semaine. Hein. Mmh. Donc autant te dire que c'était corsé, c'est-à-dire que là, j'ai eu le partner. Moi, je me levais le matin, à peu près à 6h30. Je me préparais, je partais au travail, je restais jusqu'au soir, je rentrais, je mangeais, je streamais 3 heures, j'allais me coucher à minuit, je me relevais le lendemain à 6h30. Enfin, c'était un rythme insensé. Sachant qu'en même temps, j'ai oublié de le préciser, mais pendant toute l'époque BF et aussi cette période-là, j'écrivais des articles de jeux vidéo bénévolement. Donc j'écrivais des articles sur l'actu jeux vidéo et sur Battlefield, sur deux sites. Non mais la meuf, complètement, je sais pas où j'avais de l'énergie en fait, hein, je comprends pas. Donc c'était très très corsé comme période, mais moi je sentais pas la fatigue. En fait, j'étais tellement galvanisée par le fait que tout ça était en train de prendre. Et en fait,
tu
je me rappelle
que c'était en train de, qu'il était en train de se passer quelque chose ou que ça,
ouais.
ça bougeait quoi.
Ouais. Et surtout, je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai eu mon premier don. En fait, un jour, j'ai mis en place le PayPal. À l'époque, c'était beaucoup plus les subs, les dons que les subs. Hein. Les subs, c'était anecdotique. J'ai mis en place le PayPal, en fait, sur les conseils de mes modos de l'époque et des gens. Et je me rappelle de la première personne qui est toujours là et qui est mon premier sub all time, qui s'appelle Ion et qui est encore là sur la chaîne. Ça fait plus de 8 ans qu'il est sur la chaîne. Et en fait, il m'a fait 80 euros de dons. Et là... Mais il s'est passé un truc dans ma tête, je n'ai pas compris en fait. Je me suis dit, mais quoi? Mais attends, mais comment ça? On me donne 80 euros? J'en ai pleuré. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Les gens me donnent des sous? Mais comment ça? J'en ai appelé ma mère en live. De suite, j'ai dit, mais maman, on vient de me donner 80 euros en fait. Elle me dit, mais comment ça, on t'a donné 80 euros? Je dis, ben là, je suis en train de jouer. Non, mais c'est genre, elle comprenait encore plus rien que moi, tu vois. Ouais. Elle était là, mais attends, mais comment ça? Elle m'a dit, mais les gens parient sur toi comme des courses de chevaux. J'étais là, non, je suis en train de jouer. C'est trop drôle. Elle croyait vraiment que je faisais des paris sportifs, ouais, je sais ouais. pas quoi. Et du coup, j'ai dit, mais pas du tout. Non, je joue et tout. Enfin, elle comprenait pas. Hein. Mes parents, pendant 4 ans, disaient aux gens que j'étais graphiste. Hein. Donc, pour vous dire à quel point ils comprenaient rien. Hein.
On va dire qu'il est graphiste, oui. C'est plus simple.
Ouais, c'est
marrant parce que ce dont tu parles, le boulot en même temps, tout ça, moi, j'ai, pendant des années aussi, je faisais mes podcasts. C'est ce que je dis souvent, c'est un deuxième boulot, quoi. Et il faut vraiment avoir... c'est la motivation, en fait, c'est pas juste un jour, je vais réussir. C'est que, en fait, tu as envie de le faire, que tu sois payé ou pas. Et c'est pour ça que tu le fais. Parce que sinon, ça, c'est juste pas possible, ça fonctionne pas, quoi.
C'est ça, et tu le fais. Moi, à la toute base, il y avait vraiment, même quand j'ai eu mon partenaire et tout, il n'y avait aucune notion de me dire ça va être mon travail. C'était un doux rêve que je pouvais entretenir en me disant oh, peut-être un jour, hein, sait. Mais il y avait vraiment le fait de me dire les gens s'intéressent à ce que je dis, s'intéressent à mes analyses de jeux vidéo, s'intéressent à moi, parce qu'après j'ai commencé aussi à ouvrir, à faire d'autres jeux et à analyser. Et du coup, c'est pour ça que toute ma formation m'a aussi servi. Et j'ai donné plein d'infos aux gens, etc. Et j'apprenais d'eux aussi. Et ouais, effectivement, c'est un deuxième travail. Et là, ça a commencé à prendre. Et moi, à côté, je bossais. Et jusqu'à que je gagne assez rapidement un SMIC. Et pour moi, le SMIC, c'était vraiment un peu le point de repère. Tu vois, à l'époque, c'était vraiment le SMIC. Pour moi, c'est un point de repère. Je gagnais quand même bien ma vie en tant que manager. Hein. Et là, je m'étais dit, bon, là, tu gagnes un SMIC. Bon, tu ne vas pas tout quitter maintenant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre à peu près un an. Et si tu gagnes un SMIC pendant un an ou plus, tu peux te lancer. Parce que je voulais être sûre, je voulais être stable. J'ai toujours voulu avoir de la stabilité. J'avais pas envie de prendre non plus tous les risques insensés. Parce que j'avais trop galéré parfois. J'ai bien sûr passé plein de moments de ma vie, mais trop galéré financièrement pour certaines choses. Et là, je gagnais bien ma vie en étant manager. Je me suis dit, si tu prends le risque de te retrouver avec rien, en fait, c'est hyper compliqué. Donc, je me suis dit, pendant un an, tu fais ça. Et il s'est passé plein de choses pendant un an. J'ai commencé à travailler avec Electronic Arts. Alors là, c'était pour moi pareil. Première fois, quand IE me contacte, on veut faire une vidéo Battlefield avec toi. Je préfère te dire que là, je touchais plus sol. Hein. J'étais en lévitation, quoi. Ce genre de choses. J'ai commencé à bosser avec eux, etc. Et j'ai changé de travail. On m'a proposé de travailler au Meltdown. Donc j'étais bien payée, moins d'heures, etc. Et j'étais ambassadrice du bar. Virage à 300, à 200,
à 180,
merci. Ouais. c'est plus du tout divisé 360. Et j'ai commencé à bosser un peu au Meltdown, etc. Et en fait, là, le déclic, ça a été donc, effectivement, je gagnais déjà bien ma vie stable, en tout cas de quoi vivre. Et là, il y a Arte qui m'a contacté. Et quand Arte m'a contacté pour faire une émission, pour incarner une émission hyper sérieuse, hyper, tu vois, c'était vraiment ce que j'aimais, quoi. C'était pertinent. Et en plus, j'étais co-auteur, etc. Là, je me suis dit, OK, en fait, c'est soit tu y vas maintenant, soit tu n'y vas pas, en fait. Mais là, tu peux plus jouer sur 46 tableaux en même temps. Ouais, donc, il faut faire un choix. Ouais, autant te dire que le choix a été très vite fait. Hein. J'ai dit, OK, let's go, Arte, etc.
T'étais à combien de viewers sur Twitch à ce moment, à peu près ? Tu te souviens ?
Je devais être dans les 250, 300, parfois plus. Parce que, en fait, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais de très bons contacts avec les éditeurs. On était peu en France. Et vu que j'avais des très bons contacts, moi, j'allais toujours négocier des petits exclus avant. Donc, j'allais voir les éditeurs en leur disant, écoutez, ce jeu-là m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça vous dit une petite exclue un ou deux jours avant sur Twitch, Et moi, à l'époque, pour les gens aujourd'hui, 250, ça paraît pas énorme. Tout est relatif, hein, bien sûr, mais ça paraît pas énorme par rapport à ce qu'on voit sur Twitch maintenant. Mais quand on avait 300 viewers à l'époque sur Twitch, en France, c'était génial, en fait. Tu vois, genre, c'était vraiment, tu faisais partie des bons streamers, quoi, il y a 7 ans et quelques, enfin 6-7 ans. Et parfois même j'avais plus, et du coup je négociais des exclus. Donc là, quand j'avais des exclus, vu qu'il y avait quasiment personne qui les avait, je tapais parfois ce qui était énorme à l'époque, du 600, 800 viewers, etc. Et là, ça a pris comme ça, quoi, jusqu'à faire tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu Arte, et ensuite je me suis dit, mais ok, j'adore le streaming, mais j'adore aussi présenter des émissions. C'était un peu un de mes goals, en fait, de présenter une émission. J'aime bien ce côté un peu carré. Et du coup, on m'a contacté pour d'autres émissions, d'autres choses. Et puis, je me suis ouverte au multigaming, qui a été pour moi une très bonne chose. C'était un très bon choix que de rester enfermée dans une niche, qui m'a ouvert à d'autres choses. Et puis après, très très vite, j'ai commencé à vouloir pousser les limites de Twitch, parce qu'en fait, au début, on n'avait pas le droit de faire autre chose que du jeu vidéo. Ouais. C'est-à-dire que tu ne pouvais
La question du multigaming, juste pour préciser pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de gens sur Twitch se concentrent sur un jeu spécifique, enfin le faisaient en tout cas à l'époque, même encore aujourd'hui, et la transition du je stream sur un jeu à je fais plein de jeux différents, c'est un truc qui n'est pas évident à gérer, parce que les viewers parfois, quand tu fais un seul jeu, ben, ils viennent pour ce jeu autant que pour toi. Et donc passer à d'autres jeux, ça peut être très compliqué pour certains streamers.
Ouais, ça peut être compliqué, surtout que moi à l'époque on venait me voir pour BF au tout début, elle joue à BF ou elle joue à Call of, et elle explose des gens, donc quand d'un seul coup tu commences à changer de truc, ça peut être compliqué, ce qui est drôle parce que maintenant ce serait l'inverse, c'est-à-dire que là maintenant si je vais sur Call of ou sur BF, j'ai beaucoup moins de viewers, tu vois, je suis tellement variée que les gens m'attendent plus là-dessus, quoi.
C'est marrant parce que c'est une transition qui est très difficile à faire, effectivement, mais en même temps, quand tu es associé à un jeu, tu mets ton avenir entre les mains du destin de ce jeu-là. Donc ça peut être encore plus difficile sur le long terme, quoi.
C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, au bout de 2-3 ans, Twitch a commencé à ouvrir ses portes à autre chose. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire que du jeu vidéo, on pouvait faire ce qu'on appelle du just chatting. Et discuter, c'était vraiment la première chose qui est apparue. Parce qu'en fait, ils voyaient qu'il y avait des gens qui avaient envie de discuter et qui ne voulaient pas forcément avoir un jeu en fond, en fait. Et le just chatting, pour moi, ça a été la porte ouverte à plein de choses, quoi. J'ai commencé à pouvoir un peu plus encore me dévoiler, à discuter avec les gens, à échanger avec eux. Et j'ai commencé à essayer de faire des nouvelles choses qui n'étaient pas du tout à la base prévues sur Twitch. J'ai commencé à essayer de faire des live cuisine, quoi. J'ai dû faire mon premier live cuisine, ça devait être il y a 5 ans, 6 ans. 6 ans, je crois, j'ai fabriqué des energy balls, c'était une catastrophe, sur mon bureau de PC. Enfin, des energy balls, en fait, c'est des petites boules avec de la datte, avec plein de fruits secs, pas de fruits secs, d'oléagineux,
on est toujours,
etc.,
dans le domaine de la bouffe, oui, c'est ça que
toujours dans le domaine de la bouffe, et ça s'appelle une energy ball, en fait, c'est des trucs que les gens mangent quand t'as un petit coup de mou, quand t'es sportif, etc. Et du coup, j'avais fait ça, tu vois, j'ai commencé à tester des trucs, les catégories se sont ouvertes, et il y a presque 5 ans, 4-5 ans, je suis partie en voyage, et là, je me suis dit... Mais en fait, pourquoi j'essaierais pas de liver mon voyage? Mais avant ça, il y avait eu Pokémon Go. Et il y a eu Pokémon Go, j'ai fabriqué mon premier backpack en 2016.
Pokémon Go, d'accord.
Ouais, j'ai fabriqué homemade mon premier backpack, donc qui est un sac à dos qui permet de laver en extérieur. C'est une sorte de régie portative. Maintenant, il y a des, comme j'ai là, des trucs très adaptés. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, j'avais fabriqué, c'était vraiment Antoine de Maximi, quoi. J'irais dormir chez vous avec du scotch et tout. Et j'avais réussi à faire en sorte que je me filme dehors. Et les gens voyaient aussi mon écran de jeu. Donc, il y avait deux écrans et tout. C'était, à l'époque, c'était la révolution. Et là, je tapais des scores que j'avais jamais tapés. Je frôlais les 1000 viewers en 2016, qui était un truc de fou. Et du coup, après, je suis partie en voyage. Et je me suis dit, tiens, je vais live mes voyages. Et puis, je me suis
dit,
mais tiens...
Donc, on arrive dans la période moderne de Trinity, où tu fais de l'IRL partout où tu vas, quoi.
Ouais, exactement, de la cuisine, etc. Tout s'est varié et voilà, et on en est là aujourd'hui, quoi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du coup, clairement, tu as grandi avec la plateforme. Tu fais partie des gens qui étaient là au début et qui ont bénéficié de cette présence, comme sur toutes les plateformes. Hein, y a des gens qui arrivent au bon moment et du coup qui bénéficient de ça. Mais tu as aussi su t'adapter. Je suis curieux, si on parle un petit peu plus sérieusement, un petit peu plus carrière, est-ce que ça, c'est un truc que tu as fait, la cuisine, les lives, toutes ces choses-là, que tu faisais parce que tu pensais comment est-ce que moi je peux me démarquer, comment est-ce que je peux intéresser plus de viewers, les garder engagés dans les streams, ou est-ce que c'était... j'allais dire, ou est-ce que c'était des trucs que tu avais envie de faire parce que ça te plaisait, mais c'est forcément des trucs que tu avais envie de faire et qui te plaisaient. Mais, donc je pense que la question, c'est est-ce qu'il y avait une vraie réflexion consciente je dois faire des choses au niveau créatif dans ma carrière de Twitcheuse ou pas ?
Alors, non. En fait, il n'y avait pas ce côté... c'était pas avec pour but de dire comment est-ce que je vais faire pour perdurer ou comment est-ce que je vais faire pour me renouveler. En fait, ça a été naturel et instinctif. J'ai toujours aimé sur Twitch proposer quelque chose qui n'a pas été fait ou qui n'est pas fait, tu vois, enfin, de nouveau et qui en plus me plaît. Donc la cuisine, c'est vraiment, c'est arrivé en mode, bah tiens, mais en fait, j'ai une caméra, j'ai un truc pour faire des energy balls. Si je faisais des energy balls en live, ça va être cool, les gens, ils vont bien aimer, tu vois. Après, je me faisais la petite réflexion en me disant, bah ouais, les gens vont bien aimer si moi ça me plaît, puis eux, ça leur apprendra un nouveau truc. Le voyage, c'est pareil, c'est qu'en fait, je partais, quand j'ai commencé à découvrir le voyage, j'ai découvert un peu tard, entre guillemets, mais pour moi, après, c'est devenu quelque chose. Tous les ans, c'était un peu ma bulle parce qu'on parle aussi d'une période où, à l'époque, moi, je ne prenais pas de jours de repos. Hein. Maintenant, j'en prends, hein, j'ai vieilli. Mais à l'époque,
et
surtout,
encore, ils sont rares. Hein, t'es quand même hyper, hyper présente.
Ouais, bah là, beaucoup moins avec le Tour de France parce que j'ai trop de trucs à côté. Mais oui, effectivement, je reste quand même très présente. Mais à l'époque, j'avais rien, quoi. Donc, moi, pour moi, une fois par an, j'allais en voyage. Et en fait, quand je partais en voyage, bah, c'était un mois où je ne l'avais pas, quoi. Mmh. Et une fois, je me suis dit, mais attends. On m'a dit qu'il y avait une appli là, Streamlabs, là, le truc que j'avais utilisé pour Pokémon. Je dis, mais pourquoi je l'utiliserais pas en Thaïlande en fait ? Si je mets une carte SIM de Thaïlande, est-ce que ça marcherait ? Oh, mais tu sais quoi, je vais essayer. Et j'ai commencé à me renseigner, je me suis dit, ouais, je pense que c'est possible. Alors, c'est toujours très compliqué de trouver des infos quand personne le fait. Hein. Et du coup, je l'ai lancé comme ça. Mais il n'y avait pas une. En fait, c'était pas une volonté de me renouveler, c'était une volonté de. Et c'est sans prétention, c'était plus une volonté de révolutionner un truc, tu vois, de dire ok, en fait là je veux faire un truc et pouvoir me dire que c'est moi qui l'ai essayé, en fait. Mmh. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, parce que je kiffe. C'est toujours des trucs qui me passionnent, la cuisine, le voyage, etc. Mais j'ai envie de me dire, OK, et j'ai un peu ce problème de faire toujours plus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à faire du voyage, ben, la fille, après, elle décide de faire un tour du monde. Voilà. Donc, c'est compliqué. Techniquement parlant, c'est hyper compliqué. Mais je me dis, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, y a ce truc, je me sens un peu comme celle qui va un peu élaguer le chemin. Tu vois ce que je veux dire, un peu en mode, ok, donc personne n'a fait un tour du monde en changeant de pays tous les 2 mois, 3 mois. Et bah, tu sais quoi, je vais tester et ça va peut-être inspirer des gens pour faire des trucs comme ça et ça va être cool. Et moi, ça me fait kiffer. Je me sens un peu comme ce que j'aime dans le voyage, je me sens un peu aventurière de Twitch, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Même si parfois, ça peut carrément ne pas marcher. J'ai testé des trucs sur Twitch qui ne marchaient pas. Hein. J'ai testé de la lecture sur Twitch. Je me suis dit, oh, j'adore les livres dont vous êtes le héros. Alors, il y a des gens pour qui ça marche très bien, ça. J'ai dit, j'adore les livres dont vous êtes le héros. Tiens, vas-y, si je faisais ça, j'ai lu des livres dont vous êtes le héros. Ça n'a pas cartonné du tout, mais c'est pas grave, tu vois. J'ai kiffé le faire. J'aime bien toujours tester des trucs. J'ai fabriqué des terrariums en live avec des plantes. Enfin, j'essaye vraiment de faire toujours plein de nouvelles choses en me disant, tiens, est-ce que ça, quelqu'un l'a proposé?
Donc, tu réfléchis à ton craft, quoi, à ton métier, ton art, tu réfléchis pour. C'est peut-être pas la bonne manière de dire j'y pense pour ma carrière, pour mon futur, mais t'y penses comme un art ou ton artisanat, c'est le mot que j'utilise pour décrire mes podcasts. Comment faire des choses un peu différentes, un peu intéressantes pour toi et pour tes viewers, mais tu penses à ça en tant que ça, quoi.
Ouais, exactement. Et puis c'est surtout, je pense que j'en avais besoin, en fait. Aussi, c'est que je suis toujours passionnée de jeux vidéo. Ça me fait toujours frissonner quand je vois un trailer, etc., qui me plaît. Mais ça fait 8 ans. Et pour moi, il y en a qui arrivent très bien à tenir. Tu vois, je pense à... Après, Zera, c'est un mauvais exemple parce que Zera, par exemple, lui à côté, il fait des events. Donc, c'est ce côté très galvanisant aussi. Il a de la matière. Mais il y a des gens qui peuvent tenir des années comme ça en faisant que jouer. Moi, là, vraiment, j'étais dans un mood où j'aimais toujours, mais il y avait des moments où je sentais un peu des longueurs. Mmh. Et tu sais, il y avait un peu ce côté, je me disais, mais non, mais en fait, j'ai pas envie de ça. Et j'ai toujours dit à mes viewers, je veux absolument pas me forcer, en fait. Donc, je vais essayer de faire d'autres choses qui me plaisent. Donc oui, effectivement, c'est ça, c'est je travaille mon craft, je fais monter mes points d'expérience sur d'autres trucs. Ma mère m'a toujours dit, ne mets pas tes œufs dans le même panier, donc je me suis dit, ok, donc je vais prendre 40 paniers et je vais tester des trucs, et ce qui marchera, marchera, ce qui marchera pas, marchera pas, à partir du moment où ça me fait plaisir, en fait. Et pour moi, l'IRL, ça a été la grosse découverte, quoi.
Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, tu fais maintenant... on mentionnait le Tour de France, tu vas faire le Tour du Monde, donc tu t'es carrément fait construire
c'est un fourgon aménagé, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Un camping-car, mais version homemade, en fait. Version artisanale.
Et donc, tu streams maintenant, enfin, sur la route, des visites de différentes villes, etc. Et les répétitions, c'est le Tour de France maintenant. Et puis, le Tour du Monde qui arrive l'année prochaine. J'ai une question quand même sur l'aspect financier de la chose. Tu disais qu'avec beaucoup de sagesse, tu as attendu d'être sûr d'être stable avant de te lancer à temps plein, ce qui est un truc dont on parle beaucoup avec les déboires de certains sur Twitch qui malheureusement ne tiennent pas sur le long terme parce que peut-être un des éléments, c'est qu'ils se sont lancés un peu trop tôt et qu'ils sont juste ric-rac et que du coup, au premier à-coup, au premier problème, bah, ça met des vraies difficultés. Mais au niveau financier, du coup, tu me dis, si tu ne veux pas donner de détails, comment ça se passe pour une streameuse qui en vit aujourd'hui? Est-ce que c'est essentiellement les subs? Est-ce que c'est les opérations avec des sponsors? Est-ce qu'il y a d'autres choses? T'as écrit ton livre de cuisine notamment. Ça, j'imagine que ça ne rapporte pas énormément d'argent, mais je me trompe peut-être. Comment tu gères ta carrière pour justement, maintenant que ça fait un certain temps, même si on ne se dit pas, si tu ne réfléchis pas forcément à « je veux durer sur le long terme », y a quand même, j'imagine, au bout d'un moment, la question de la pérennité et de pouvoir en vivre qui se pose. Comment ça se passe à ce niveau?
Alors, c'est très particulier parce que Twitch a grandement évolué, comme on le disait. Donc moi, au début, je vivais intégralement de ce que les gens me donnaient. C'était les dons. Donc les gens étaient extrêmement généreux en dons et quand je dis extrêmement généreux pour moi tu vois pour gagner un SMIC par mois parce que tu as des dons c'est extrêmement généreux hein. Les gens étaient très généreux et j'avais très peu de subs. À l'heure actuelle, je fais partie de ces streamers où j'ai pas énormément de subs. Tout est relatif, bien évidemment, mais je parle par rapport à ma communauté. Je mets pas en avant les subs. C'est pas quelque chose que je mets en avant. Ça, c'est un choix personnel. Je les ai jamais mis en avant parce que j'ai toujours eu un peu de mal, en fait, tu vois. Alors, abonnez-vous, etc. Ouais. Tu vois, je n'y arrivais pas sur ma chaîne parce que ce n'est pas mon seul point de revenu. Ça serait que mon seul point de revenu, sans doute que je le dirais, tu vois. Comme par exemple, toi, pour tes podcasts, c'est ce qui permet de faire vivre ton podcast. Donc, c'est un autre cas, tu vois. Mais par exemple, moi, sur Twitch, après, il y a eu les OP qui sont arrivés et il y a eu les sponsors. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu les sponsors réguliers, c'est-à-dire pas comme les OP où c'est une fois de temps en temps, où là, tu n'as aucune stabilité, une fois que tu as signé des contrats et que tu atteins un certain stade, t'as des sponsors qui sont réguliers et qui te payent tous les mois. Ce qui fait que j'ai ma stabilité. Ce qui fait que je me sens mal, par exemple, d'aller demander aux gens qui parfois gagnent moins que moi, « Ouais, les gars, soutenez-moi, quoi. » Tu vois, c'était un peu délicat pour moi. Donc, à ce niveau-là, à l'heure actuelle, ce qui me rapporte le plus, c'est mes sponsors. Parce que là, par exemple, avec le Tour de France, j'en ai 4. Donc, ça me permet d'avoir une vraie bonne stabilité. Bon, n'oublions pas de préciser derrière qu'on a énormément de charges. Ça ne fait pas que je n'ai pas d'argent ou que je ne gagne pas bien ma vie, mais on a quand même beaucoup de charges qui se greffent à tout ça, beaucoup de frais. Moi, j'ai beaucoup réinvesti aussi mon argent. Il faut savoir que là, alors les gens me diront « Oui, non mais Trinity, le van, tu vas en profiter pour toi aussi. » Oui, mais pour l'instant, le van, à l'heure actuelle...
C'est un investissement hyper important, ça, j'imagine.
Ouais. C'est ça. Et pour l'instant, le van, à l'heure actuelle, j'ai passé plus de jours à streamer que ce que j'ai passé de jours à vraiment être dans mon van, à juste kiffer. Parce que même les jours où je stream pas, je suis en train de bosser dedans. Donc c'est quand même un vrai investissement aussi pour mon stream. Pour moi et pour mon stream. C'était les deux, en fait. Et rien que ça, en fait...
Tu gères tout seul ou est-ce qu'il y a des gens qui t'aident dans ton quotidien professionnel?
Alors moi, j'ai ce gros défaut qu'ont beaucoup de créateurs. J'ai beaucoup de mal à déléguer, hein, bien sûr, parce que j'aime bien être maître de ma barque. Mais j'ai un agent avec qui je ne suis pas en exclusivité. Donc ça me permet d'être quand même vachement libre si je reçois une OP et de la traiter par moi-même, etc. Mais c'est aussi un ami à moi. Et du coup, il m'aide vraiment à gérer tout ce qui est aspect financier, entre guillemets. C'est surtout que... Il y a des gens qui se surestiment et des gens qui se sous-estiment en termes de prix dans ce milieu-là. Et moi, je fais partie des gens qui vraiment demandaient des tarots ridicules, en fait. Mmh. Et mon agent m'a dit, non, mais là, c'est pas possible, en fait. Par rapport à ce que tu fais comme stat, ben, le prix du marché, c'est ça. On fonctionne au marché, hein, en fait. C'est comme n'importe quel milieu. Donc, quand les gens disaient, les footballeurs sont payés tant. Oui, mais les footballeurs sont payés tant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Donc, voilà. Et lui m'aide beaucoup là-dessus. C'est lui qui m'a trouvé, par exemple, tous mes sponsors. Pour le Tour de France, qui a eu les contacts, donc ça m'allège en fait, ça m'évite d'aller faire des demandes, des mails, etc. Ce que les gens ne voient pas, c'est que là, pour deux sponsors qu'on a eu en Tour de France, on a dû contacter 50 marques. 50 marques, mais qui n'étaient pas du gaming, donc qui ne connaissaient pas Twitch, à qui il faut tout expliquer et qui sont encore frileuses. Donc lui m'aide. Maintenant, je suis passée en entreprise, donc j'ai forcément un cabinet de comptable qui me fait ma comptabilité, qui gère la TVA, etc. Et ça aussi, ça fait du bien.
Attends, tu veux dire que tu faisais ça toi-même jusqu'à...
Ah oui
jusqu'à... Oh putain.
Ouais, je faisais tout moi-même. Je faisais tout moi-même. Et mon chéri le comprenait pas. Là, il vient passer en auto-entreprise et tout. Et je pense que là, il va un peu plus comprendre. Mais, ah, ça me prend la tête. Dit, ah, tu vois, quand je te disais que j'étais encore... en train de bosser et que tu...
Et encore, auto-entreprise, c'est facile hein, par rapport... Et c'est bien prise de tête. Mais oui, quand tu passes en entreprise, là, c'est juste plus possible.
De toute façon, en fait, en entreprise, t'es obligé. Donc t'es obligé d'avoir un cabinet. Donc, du coup, j'ai comptable. Mais tout le reste, je gère moi, en fait. Mmh. Tout. Et c'est un problème. Hein. Honnêtement, j'avais cette réflexion il y a deux jours. Pour moi, là, il faut que je délègue, en fait. Parce que je ne peux pas, à l'heure actuelle... Si tu veux être bien présent, il faut être sur Twitch. Quand t'es streamer, il faut travailler ton YouTube, il faut travailler tes réseaux. Et les réseaux, c'est Instagram, TikTok, Twitter, qui ne demandent pas le même contenu. Donc moi, je travaille déjà mes réseaux, je travaille beaucoup mes photos, j'essaie de proposer du contenu quali, j'ai toujours voulu avoir une plus-value. Et c'est parfois compliqué parce que ça demande beaucoup de taf. En Tour de France, tous les matins, je suis en train de retoucher mes photos pendant une heure, quoi, tu vois, essayer de faire... Et c'est pas des photos de moi, hein, c'est des photos, j'essaie de prendre des belles photos, de paysages, de ci, de là.
Elles sont très très belles, ceci dit, hein, c'est vraiment magnifique.
Mais... Je suis à mes débuts, hein, là, vraiment, je suis très contente des retours que j'ai, parce que je me suis dit, tu sais quoi, là, j'ai l'occasion de pouvoir faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu vois, nouvelle corde, nouvel œuf dans un nouveau panier, mais je me suis dit, bah tiens, mais pourquoi je ne saurais pas travailler la photo, en fait ? Parce que j'aime prendre des beaux clichés, prendre des beaux paysages, et bien tiens, je vais aussi me pencher sur comment fonctionne un logiciel de retouche, un vrai logiciel de retouche, comme Lightroom, pour essayer de travailler les axes de lumière, etc. Donc j'essaie vraiment, tu vois, de me mettre là-dedans. Et en fait, tout ça, mais on ne peut pas. Je ne peux pas tout faire, en fait. C'est pas possible. Je peux pas faire des montages TikTok, faire des réels Instagram, faire des montages YouTube. Je peux pas. Donc là, je suis en vraie réflexion. Je vais avoir une discussion prochainement avec quelqu'un pour quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer ne serait-ce que les montages pour TikTok. Parce que pareil, les montages TikTok, je veux pas faire des trucs bateaux. J'ai envie de faire des trucs cool qui donnent des infos sur le voyage, sur des pays, sur la culture du pays, de la nourriture, etc. Et en fait, j'ai envie de bosser main dans la main avec quelqu'un pour que lui, il sache ce que je veux et qu'il puisse me monter les trucs, quoi. Parce que c'est impossible pour moi de le faire. Ça, un montage, on dirait pas, mais un montage de 30 secondes, parfois TikTok, ça peut te prendre une heure et demie à faire, quoi. Et encore. Ouais, c'est compliqué, c'est long. Donc, je délègue doucement, mais sûrement. Mais j'ai fait, ça fait des années que je bosse toute seule, quoi.
Du coup, tu réponds un petit peu à la question que je voulais te poser en conclusion, qui est là encore très classique. C'est comment est-ce que tu vois l'avenir dans les quelques prochaines années. On va pas aller peut-être plus loin que ça, mais oui, l'avenir, c'est le tour du monde. Du coup, t'es complètement focalisé là-dessus, j'imagine.
Ouais, je suis focalisée et en même temps, j'ai appris, après toutes ces années de stream, à ne pas trop faire de plans sur la comète, à ne pas me dire « je serai là à tel moment », parce que j'aurais jamais pensé il y a 8 ans que je sortirais un livre de cuisine. Et d'ailleurs, oui, pour répondre à ta question, non, les livres de cuisine, ça rend pas riche. Hein. Moi, je l'ai fait uniquement. Que c'était un énorme kiff et que je trouve ça génial, mais si vous voulez être riche avec des livres, va falloir en vendre. Et du coup, j'ai appris que tout est surprise tout le temps. Donc, et surtout, j'ai appris à me faire confiance. Donc maintenant, je me dis, suis ton instinct. Là, je suis effectivement focalisée sur mon tour du monde. Mais pareil, les gens me demandent, Trini, il va durer combien de temps et tu vas faire quoi? Et bien, je leur dis, je n'en ai aucune idée. Hein. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je vais préparer le continent américain un petit peu. Mais le but aussi de ça, c'est de se laisser porter et de se laisser aller et de ne pas vouloir tout prévoir. Après, tu vois, j'aimerais éventuellement... pourquoi pas faire un livre de cuisine par continent en travaillant aussi sur de la photo, sur un petit carnet de route qui permettrait aux gens de voyager tout en cuisinant mes voyages, entre guillemets. Donc, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui commencent à se faire. Des gens qui me demandent, ils me disent, mais est-ce que tu vas faire des tirages de tes photos? Des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et ils me disent, mais on aimerait bien nous t'acheter des tirages de tes photos en édition limitée, etc. Et je me dis, mais c'est vrai, c'est pas bête. Mais bon, en même temps, un peu syndrome de l'imposteur en me disant, mais attends, mais je suis pas photographe. Mais en même temps, je me dis, bah, si je les vends à un prix très correct, pas quelque chose où je me prends pour une artiste, tu vois, à 200 balles la photo, mais que je les vends à un prix sans forcément vouloir me faire de la thune, en fait, tu vois. C'est surtout que il n'y a pas forcément cet aspect. Bien sûr qu'on est content de gagner de l'argent. Bien sûr que c'est cool quand tu peux te faire plaisir, etc. Mais très, très honnêtement, quand je pense un projet, je ne le pense pas forcément financier. Sinon, j'aurais jamais acheté un van à 80 000 euros. Qui va me falloir 10 ans là, pour pouvoir l'amortir en stream. Et j'aurais pas fait tout ça, tu vois. Bien sûr, j'essaye de me dire juste au moins, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas trop y perdre pour ma chaîne, oui, bah au-delà de l'argent, que les gens seront là. Moi, j'étais persuadée que j'allais plus avoir d'OP. Vraiment, hein, il y a eu des moments de panique où je me suis dit, il n'y aura plus d'OP. Ça va être compliqué, mais je suis prête à gagner moins pour pouvoir vivre cette expérience-là. qui est plus importante que ce que je peux gagner, en fait. Tant que j'ai de quoi vivre, ça me va. Donc l'avenir, ouais, tour du monde et continuer à me faire confiance. Ça a pris des années, vraiment, parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui, en écoutant tout ça, vont se dire « Ah, oh, parfois, elle est un peu sûre d'elle et tout. » Ça a pris des années, en fait. J'ai vraiment travaillé ce truc-là. C'est pas être sûr de soi sur tout, c'est savoir se remettre en question, mais savoir se faire confiance et apprécier son travail quand on le fait. Et savoir aussi le déprécier quand il faut le déprécier.
Quand c'est, tu vois,
c'est important aussi. Voilà, il faut savoir se dire, bon, bah là, non, j'ai pas géré, ou non, ça, c'était pas fou. C'est pas grave, en fait. Mmh. Et maintenant, bah juste, je me fais confiance, je fonce, et je suis beaucoup trop impatiente de découvrir le monde avec les gens, en fait. Découvrir le monde et le jeu vidéo. Hein, le jeu vidéo continue. Pour moi, j'ai mis tout en place. Là, j'ai de quoi maintenant. On a testé, j'ai de quoi live en 1080, 60 FPS, dans mon van, avec une connexion Ethernet. Donc, que demande le peuple, en fait, tu vois, du voyage. Et de temps en temps, je peux me faire, là, quand tu auras une sortie, etc., bah, je peux me faire la sortie que j'attendais. Donc, j'ai accès à tout ce qui me plaît et je peux continuer à cuisiner. Donc, tout va bien.
Parfait. Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion à cette discussion. Donc, un grand merci d'avoir été là avec moi pendant une petite heure et demie à discuter de ta vie. C'était hyper intéressant, oui. Et j'ai très hâte de continuer à te suivre dans tes aventures, du coup, dans les, oui, mois et les années à venir.
Il faut quand même préciser que Patrick, il m'a dit « Bon, on part sur 45 minutes, ça te va ?» Genre... Mais tu sais à qui tu t'adresses, Patrick, ou pas, en fait?
Hey, tu sais, on a quand même des similarités dans nos personnalités. Je pense que le fait de d'être public avec soi, ça doit avoir, il doit y avoir un petit peu de ça aussi. Mais tu peux pas imaginer à quel point je t'ai interrompu quand même à de nombreuses reprises dans l'enregistrement, à quel point je me suis retenu de parler encore plus, parce que moi, je suis exactement comme toi, je m'arrête jamais. Et là, je suis très, très, très fier de moi. Tu sais, c'est le craft qui rentre, le métier qui rentre, et je t'ai laissé parler. Donc, en même temps, c'était pas forcément très dur de te laisser parler, parce que tu as l'habitude, c'est parfait.
Ouais, ouais, moi je m'arrête pas. Moi, il faut m'arrêter, en fait. Hein. Sinon je peux continuer, on peut repartir pour une heure.
Donc, écoute, malheureusement, mes enfants, finalement, pendant qu'on parlait, ma femme m'a envoyé un message et elle me dit « Ah bah finalement, les enfants, on va revenir avec les enfants dans l'après-midi plutôt que le soir. Donc là, il faut que j'aille ranger quelques trucs, manger et puis être prêt pour l'arrivée des tornades. Donc, donc malheureusement, on va s'arrêter, mais on se retrouvera.
Oui,
évidemment, sur ton stream, et puis on se retrouvera dans l'émission à un moment. Je sais pas très bien comment ça va se passer avec les Tours de France, les Tours du Monde, tout ça, mais normalement on est là.
Normalement, ça pas de soucis au niveau de la co. Le seul souci, c'est quand je me trompe de date. Quand je mets ça, il vous l'a pas dit parce qu'il est trop gentil, mais le seul vrai problème, c'est quand je note le rendez-vous jeu à la mauvaise date et que du coup je n'arrive jamais, en fait. Voilà. Mais vu qu'il est très sympa, il ne le dit pas.
C'est tellement rare, on ne les compte même pas. Mais écoute, du coup, ça sera a priori le mois prochain, en août, où on, ouais, fera, ça sera le retour de Trinity dans le rendez-vous jeu avec un épisode classique, normal, hein, comme d'habitude. Et puis d'ici là, bon courage. Là, au moment où on enregistre, tu te prépares pour un concert que tu attends depuis des années. Donc.
Oui, je vais voir Rammstein ce soir. Je suis exaltée.
Donc, on te souhaite bon courage pour ça. Évidemment, le lien vers ton compte Twitter est dans les notes de l'émission. Et vous trouverez le lien vers toutes ces activités en ligne depuis Twitter. Et pour ma part, vous savez, c'est NotePatrick sur Twitter et partout. Et NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, le Discord, Twitch, le Patreon pour le rendez-vous jeu, si vous voulez soutenir l'émission financièrement et envoyer des sous-sous. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve. Alors attendez, à quel moment on diffuse la semaine prochaine? Normalement, quand vous entendez l'enregistrement, ça sera JK qui fait une émission classique sur l'actu, donc vous saurez de quoi, ce qui se passe dans le jeu vidéo, et puis la semaine d'après, moi, je serai là avant de refiler. Bref, il y aura d'autres choses, mais l'émission classique revient. Merci beaucoup, Priscilla.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine.
À la prochaine.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.